Bien, bonsoir à toutes et à tous. S'il vous plaît, séance est ouverte. Madame Borrell, si vous voulez bien faire l'appel.
Abidi, Nadia. Aoun, Daniel. Blanc, Michel. Body Bouquet, Florine. Bon, je pense qu'elle va arriver. Bonnet, Michel. Brossard, Gonfond, Anne-Marie. Cherubini, Hervé. Clapier, Jean-Pierre. Colombet, Gabriel. Dourdin, Carole, représenté par Yves Favergeon. Favergeon, Yves. Gay, Michel, représenté par Pierre Guillot. Giovannetti, Michel. Guénaud, Jacques, représenté par Hervé Cherubini. Guignard, Stéphane. Il ne devrait pas tarder non plus. Guillot, Pierre. Ingoglia, Angeline. Jodard, Françoise. Lapère, Pierre. Lobry, Patricia. Marin, Bernard. Marceau, Jordan. Milan, Henri. Montagu, Claudia. Nègre, Yves. Houlet, Vincent. Pascal, Martine. Perrault, Ravez, Gisèle. Plo, Isabelle. Ponce, Frédéric. Rebaud, Mireille. Vidal, Fuentes, Denise. Wild, Mireille. Merci.
Bien, permettez-moi, avant l'adoption du compte-rendu de la dernière séance, de saluer la présence de M. Michael Lafontaine, qui est derrière vous, donc voilà, aux côtés de Mathilde Mazuy, qui est notre nouveau directeur du CCAS, M. Légoni, ayant pris une retraite méritée. Voilà, donc bienvenue à M. Lafontaine, qui exerçait les mêmes fonctions dans une commune un peu plus au nord, même beaucoup plus au nord dans notre pays, carrément dans le département du Nord, du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, d'accord. Donc, oui, c'est difficile de faire beaucoup plus au Nord. Donc, bienvenue. On vous souhaite toute la réussite possible dans vos fonctions, voilà, que vous avez entamées il y a maintenant quelques jours. Les autres, je ne vous les présente pas. Vous connaissez tous les agents qui sont autour de la table. Alors, concernant le compte rendu de la dernière séance, est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est contre l'adoption de ce compte rendu ? Abstention. Unanimité. Merci. Alors, on passe maintenant, comme d'habitude, aux décisions. La première, la numéro 2018-33. Il s'agit d'une décision relative à l'achat du spectacle plus haut, 31 mars 2018. La salle avait une jauge de 230 places. Il y a eu 202 spectateurs. Voilà, vous avez le tarif. De session, 3 600 € net. La décision d'après, la 34, renouvellement...
Monsieur le maire, s'il vous plaît, il y avait... les personnes qui ont fait le spectacle, ils étaient combien ?
Ouh là là, bonne question. Madame Lobry, peut-être ? Monsieur Martin ?
Il y avait combien de personnes qui faisaient le spectacle ? Oui. D'accord.
En fait, il aurait fallu avoir 500 spectateurs pour qu'on puisse faire un échange d'argent, quoi, en fait, pour amortir ce spectacle.
Ah, je suis pas d'accord avec vous, madame Aoun. 202 spectateurs, c'est autour de 20 € la place. Ça fait à peu près 4 000 €. Ça a coûté 3 600.
Tarif 14, 12, bon, 10, ça fait une moyenne de 10 €, moi, je dirais plutôt.
Tiens.
Bon, même si la collectivité a perdu 500 € sur ce spectacle de qualité, bon, franchement, je vois pas, je sais pas que ça mettra en péril les finances communales.
Et vous permettez, ouais, ce que je tiens à dire quand même, c'est que c'est pas systématique de faire une opération blanche. C'est assez compliqué de dire qu'on va faire salle pleine pour tel ou tel spectacle. Et parfois, on fait beaucoup plus, et du coup. On a l'équilibre. On arrive quand même à 42% d'autofinancement sur la programmation culturelle.
Bien, la décision suivante, la 34, renouvellement de l'adhésion auprès de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. On en parlait, donc renouvellement, 204 €. La 35, réseau marque valeur parc naturel. Oui.
Oui, je voulais savoir en quoi consistait l'aide qui est fournie aux élus.
L'aide qui est promise aux élus, ben, c'est un réseau.
Voilà, simplement compléter.
Pour la FNCC, ce que vous voulez savoir, c'est l'utilité. L'utilité, Angeline, c'est ça? Ben, en fait,
exactement, il vous apporte. Voilà.
Alors, au moins une fois par an, on se rencontre déjà pour faire un bilan, et la plupart du temps, c'est pendant le Festival d'Avignon. En dehors de ça, on est parfaitement au courant de toutes les informations qui viennent tant des gouvernants que des collectivités alentours. En revanche, on n'a pas de conseils sur les spectacles. Ça reste des informations culturelles, et il y a une lettre aussi mensuelle.
Voilà. D'accord, merci.
La décision suivante, la 35, visite gratuite pour les opérateurs de la marque Parc, qui font le relais donc auprès des visiteurs, visite gratuite au musée des Alpilles. La 36, il s'agit d'un tarif spécial pour le jour de la transhumance. Donc c'était un tarif à 2 euros. Il y a eu à peu près une centaine de visiteurs jusqu'à 14 heures. Bon, vous savez qu'ensuite il a plu et que évidemment ça n'a pas favorisé la visite des musées locaux. Voilà, mais bon, ça a quand même plutôt bien marché parce qu'une centaine de visiteurs en quelques heures, en fait, même pas, puisque la transhumance était aux heures, 11h30, donc ça a duré à peu près jusqu'à 14 heures, donc centaine de visiteurs, c'est très bien. C'était pour l'expo Bête à laine. La 37, ce sont de nouveaux tarifs pour le musée des Alpilles. Ça concerne une convention avec une dame qui fait des visites guidées à titre privé. Donc c'est la reconduction de la convention plus des nouveaux tarifs groupes et des journées d'intervention différentes.
Est-ce que... Oui. Un groupe, il y a combien de personnes à peu près?
Pardon?
Dans un groupe, on compte combien de personnes?
Alors, c'est très variable. Ça va de zéro, parce que parfois, la personne, à 6, 8, 10, 15, c'est extrêmement variable. Mais bon, il n'y a pas d'engagement financier de la commune là-dessus. Hein. C'est la personne qui assume ses propres risques. La décision 38, convention de partenariat culturel saison 13 avec le conseil départemental. Bon, c'est la convention classique avec le département, vous connaissez. On la repasse toutes les années. La 39, tarif des activités mises en place par la maison de la jeunesse. Donc, vous avez les tarifs classiques en fonction du quotient familial. Et les inscriptions sont ouvertes, elles sont en cours. Donc, c'est pour le mois de juillet. Donc, encore le temps. Hein. La numéro 40, oui.
Monsieur dans quelle Bourette. Activité Monsieur Il y a une Bourette. Activité spécifique ou c'est un ensemble d'activités sportives?
Alors, il y a un séjour un peu plus sportif, type rafting en montagne, et un séjour un peu plus tranquille, plus tourné sur des balades et des activités aquatiques, mais sans enjeux, je dirais, majeurs, comme peut être le rafting ou le canyoning. Je ne sais plus exactement, mais en fait, on a un... Depuis quelques années, on a un séjour un peu plus sportif et un séjour un peu plus tranquille pour viser les deux types de jeunes. Voilà, sur sa vie.
Très bien.
Je ne peux pas vous donner les inscriptions pour l'instant, c'est en cours.
Merci.
Alors, la suivante, la numéro 40. Il s'agit de la reconduction du précédent contrat, donc prestation d'estimation des valeurs d'assurance et des biens de la commune. Il nous faut le faire régulièrement. C'est nécessaire pour avoir des contrats d'assurance à jour. Et il y a d'ailleurs une délibération qui suit sur ce sujet. La numéro 41, rétribution d'un argent artistique. Donc, vous connaissez le contenu de la convention avec l'association musicale des Olivades. C'est la ville qui paye les artistes, c'est l'association qui paye les hébergements, et c'est la ville qui encaisse les recettes des artistes, donc, à l'Alpilium. Voilà. Et là, il y a eu un petit peu moins de 200 entrées, 170, 171, quelque chose comme ça. Voilà.
Monsieur le maire, oui. Je suis assez étonné, je n'ai jamais vu que... Une ville paye un agent artistique. En principe, l'agent de certains artistes se rétribué par les artistes, se paye sur le contrat de l'artiste. J'ai jamais vu. J'avoue que je suis très étonnée de ce.
Mais ça revient strictement au même, hein, Madame Ngouglia.
Ah non, soit peut-être, mais c'est une
plus
question.
Cher, soit on paye directement l'agent. Les agents, ils sont liés avec les artistes. De toute façon, ça fait partie du prix. Donc, soit l'artiste qu'on devait payer 100, on le paye 115, il y a les 15% en plus. soit on paye 15 à l'agent artistique et 100 à l'artiste. C'est du classique, hein. Enfin, monsieur Martin qui connaît ça, il peut vous en dire le mot si vous voulez. Mais...
Ça me choque un peu, hein, comme procédé, mais bon.
Non, c'est vrai, vous avez raison. En règle générale, bon, le coût de l'argent artistique est compris dedans. Là, c'était une demande particulière de l'agent artistique pour ce concert-là. Ça arrive, hein, quand même parfois que les coûts de l'argent artistique soient sortis de l'enveloppe artistique.
Et l'artiste était au courant, j'espère.
Oui, bien sûr. Bah oui, 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 c'est l'agent de l'artiste, donc ouais. Jusqu'à preuve du contraire, ils étaient au courant.
En tout cas, il n'y a rien d'illégal.
Non, mais ça a attiré mon attention parce que ce n'est pas un procédé habituel.
Mais je vous en prie. Alors, la décision 42, adhésion de la ville de Saint-Rémy au réseau national des maisons des associations. Donc, c'est une reconduction, 347 euros. C'est pour la maison des associations, évidemment. La numéro 43, mission de coordination, sécurité, protection de la santé sur le chantier. Aménagement de l'avenue Théodore Banel et réfection du parking du collège. Donc vous l'avez constaté, c'est un chantier qui a démarré. Donc il est en cours, on en est à la pose des bordures. La date prévisionnelle de fin de chantier, c'est fin juillet. Voilà. La numéro 44, convention de mise à disposition de tracteurs focardeurs pour le SICAS. Syndicat intercommunal excellemment présidé par ma voisine. Donc il s'agit du dédommagement des mises à disposition. Bon, entre collectivités et syndicats intercommunaux, il est normal que se prête du matériel, mais il est normal aussi que la collectivité prêteuse se fasse dédommager la mise à disposition. C'est l'objet de cette convention.
Monsieur le maire, ces tracteurs ont opéré sur le territoire de la commune ou au-delà? Il n'y a pas de limite?
Non, c'est sur le territoire du SICAS, oui. Des villes communes du SICAS. Alors c'est plus facile de demander à Saint-Rémy parce que le siège est à Saint-Rémy, hein, pour des raisons évidentes de déplacement, quoi. Alors la numéro 45, tarif des activités mises en place par la maison de la jeunesse. Là, il s'agit de sport break. Donc c'est du sport sur écran. Voilà. Et ça a coûté 8 euros aux jeunes qui ont participé. La numéro 46, frais de dossier périscolaire, c'est une reconduction. S'il vous plaît, les tarifs sont échangés, donc à 10 euros. Et je vous rappelle que c'est uniquement pour les personnes qui sont en retard. C'est gratuit pour toutes les autres. Hein. C'est des frais de dossier pour les personnes qui n'auraient pas retourné les dossiers en temps voulu. La numéro 47, convention subséquente de mise à disposition de biens collégiales Saint-Martin, tableau de Saint-Marc. Bon, c'est la Xème, j'ai pas le chiffre en tête, mais on commence à en avoir passé un paquet, hein. Un certain nombre, pardon. Donc là, il s'agit du tableau de Saint-Marc, qui pour la première fois est un grand format. Voilà. La numéro 48, convention de partenariat entre le musée des Alpilles et la société Le Géant des Beaux-Arts. Donc c'est une convention avec un fournisseur de matériel qui offre du matériel pour le montant que vous avez sous les yeux, 342,20 €. Voilà. La numéro 49, location de l'Alpilium pour une fête de fin d'année scolaire. C'est la ville de Saint-Étienne-du-Grèce qui loue l'Alpilium. Donc, entre communes voisines et membres de la même intercommunalité, on leur a proposé des tarifs amicaux, donc 225 €. Voilà. La numéro 50, travaux de rénovation des menuiseries extérieures de l'hôtel de ville. Donc il y a eu une commission d'appel d'offres adaptée le 19 avril. Et donc vous avez le montant des travaux, 58 494 € hors taxes. Et c'est la société Menuiserie Moine, donc, qui est située à Boulbon, dans le pays d'Arles, qui a été retenue. Évidemment, le but de ces travaux, c'est développement durable, économie d'énergie, etc., etc. La numéro 51, acquisition et mise en service de classes mobiles pour les écoles de la République et de l'Argelier. Donc c'est un marché à bonne de commande sur 3 ans, avec un minimum 40 000 et un maximum 80 000, comme vous l'avez sous les yeux. Et c'est la société Ordisis Informatique qui a été la mieux disante. Voilà, et tout ça doit être installé pour la rentrée prochaine.
Excusez-moi, monsieur le maire, l'année dernière, on avait déjà voté pour ces classes mobiles, non? On avait déjà fait quelque chose dans ce domaine-là, puisque vous nous aviez expliqué que c'était une nécessité parce que, en fait, ça permettait aux enfants de ne pas se déplacer puisque tout le matériel était sur un chariot, quoi.
Vous votez le principe, mais monsieur Vallée,
on avait voté la demande de subvention.
C'était la demande de subvention, et alors on a pu savoir donc combien on a obtenu ou pas ?
Une subvention de 48 000 euros.
48 000 euros la subvention, ok.
Ce qui représente mais 60% du montant maximum, c'est pas mal.
Oui, bien sûr. Mais donc il y a une grande marge entre 40 000 euros et 80 000 euros au maximum. Vous ne pourriez pas établir un prix de façon plus précise ?
C'est un marché à bonne commande, Madame Aoun. Le principe du marché à bonne commande, c'est qu'on tire en fonction des, en fonction des besoins, quoi. Quant à la subvention, c'est 48 000 euros maximum si on va jusqu'à 80 000, mais c'est, en fait, la subvention, c'est 60% de ce qu'on dépensera.
Oui, donc, bien sûr.
48 000, si on dépense, c'est 40, évidemment.
Oui, ça oui, je pense bien. Et là, c'est sûr que ça va être mis en place à la rentrée, là.
Ah ben, c'est dans le marché avec l'entreprise qui a été retenue, oui, oui. Monsieur Vallée,
ce sera échelonné un petit peu, mais il y a une partie des classes qui sera mise en place dès la rentrée, normalement, si le matériel est livré.
D'accord, bah, il sera livré, forcément.
C'est les commandes, et on espère, normalement, si tout va bien, principe de précaution.
Parce que l'année dernière, il me semble...
Excusez-moi, j'ose espérer que ça sera livré pour la rentrée, parce que ça fait un moment qu'on attend.
Voilà,
mais,
ce que je voulais dire.
Mais ce que je voulais préciser, c'était que c'est dans le cadre du plan numérique, hein, je voulais resituer du plan numérique national, donc le collège est équipé, nous on a pu bénéficier de cette subvention. Effectivement, cette subvention a été demandée, votée il y a à peu près un an, donc c'est vraiment extrêmement long, hein, comme procédure, mais la réponse du gouvernement, enfin de l'État, on l'a eu il y a que quelques mois, hein, donc tout ça est beaucoup plus long que ce qu'on peut toujours imaginer. Et dans cet ensemble, dans cette enveloppe, il y a à la fois les équipements pour effectivement les ordinateurs portables et les classes mobiles dont on a déjà parlé ici, et il y aura également quelques tableaux numériques qui feront partie de ce même marché. Donc aujourd'hui on les donne au compte-gouttes en fonction des demandes des écoles. Mais nous avons deux ou trois demandes pour la rentrée prochaine qu'on souhaite honorer pour pouvoir avancer dans ce domaine. Mais il faut d'équiper que les classes dont les enseignants sont vraiment demandeurs et qui sont formés pour.
Et ce ne sont que des classes des écoles publiques qui sont concernées.
Tout à fait, tout à fait.
D'accord.
Bon, on a 4 mois, monsieur Vallée, devant nous, un compte sur vous pour que ça soit livré à la rentrée. Hein.
Ben oui, parce que je crois qu'il y a des enseignants qui sont très demandeurs quand même, hein, à la République, et qui auraient espéré que ce soit mis en place plus tôt. Mais bon, attendons.
Alors, la décision 52, convention de dépôt-vente avec un prestataire et le musée des Alpilles, bon, ce sont les conventions classiques, hein. La ville ne débourse rien, les gens amènent les livres ou le matériel vendu, et puis en fonction des ventes, évidemment, ils sont remboursés, le musée des Alpilles prenant sa marge. Voilà, je vous fais grâce de la liste, hein. Je ne vais pas vous lire toute la liste, vous l'avez sous les yeux. Et enfin, la dernière décision, la 53, il s'agit de l'adhésion de la ville de Saint-Rémy à la maison de la transhumance. Pour la modique somme de 50 euros. Voilà, maison de la transhumance qui nous a accompagnés en partenariat dans la préparation de la très belle exposition Bête à laine que vous avez au musée des Alpilles et que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Sachant qu'évidemment, ce sont les services municipaux qui ont monté l'exposition. J'en profite pour les féliciter. Bien, première délibération à l'ordre du jour, monsieur Favergeon.
Oui, bonsoir. Je présente cette délibération à la place de Jacques Guénaud qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc, vous l'avez vu, il s'agit de l'achat d'une petite parcelle de 17 mètres carrés qui est située le long de la propriété de Madame Cricorian, avenue Louis Mistral. Il y a des travaux qui ont démarré, vous le savez. on l'a aussi évoqué à plusieurs reprises ici. Avant le changement de loi de 2010, je crois, ça aurait été une session gratuite, dans, puisque la rue est frappée d'alignement. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par une session onéreuse. Et donc, c'est ce qui vous est proposé. 17 € le long de la parcelle AL90. 17 m², pardon, le long de la parcelle AL90. Donc, au sud de la parcelle, pour un prix de 3 000 €, les frais de bornage et de notaire étant à la charge de l'acheteur, donc de la commune.
Merci.
Il y a eu un accord. Les deux parties ont été d'accord sur ce.
Il y a eu un accord et vraisemblablement on aura des délibérations semblables puisqu'il y a deux propriétaires qui sont situés à côté avec qui on a des accords de principe mais qui ne sont pas encore des accords écrits.
Tout à fait. C'est avec l'accord de Mme Krikorian que j'ai eu le plaisir de recevoir et que je remercie parce que ça permet de solutionner un problème. Bien, sur cette acquisition, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. On passe maintenant au chapitre contrat, convention, marché. Alors, la première convention, il s'agit d'un groupement de commandes pour des marchés d'assurance, dommages aux biens immobiliers et mobiliers. Donc, c'est une convention ville-CCAS et il s'agit d'un contrat pluriannuel sur 3 ou 4 ans. Voilà, donc on vous propose d'approuver la constitution du groupement de commandes et de signer évidemment les conventions constituant le groupement. C'est là aussi du classique. Le but de se regrouper avec le CCAS, monsieur le directeur, je suis persuadé que vous en êtes persuadé, c'est évidemment d'obtenir des prix intéressants et pour la commune et pour le CCAS. Voilà, sur cette convention de groupement de commandes, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Alors, dossier suivant. Cette fois, il s'agit d'un appel à projet en vue de la passation d'un bail emphytéotique administratif assorti d'une concession de travaux pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l'ancienne décharge de Saint-Rémy de Provence. Et là, il s'agit du choix de l'attributaire. Alors, vous vous en souvenez, la première fois, 3 candidats étaient arrivés dans un mouchoir de poche. Du coup, on s'est permis de relancer en se disant on aura des conditions forcément plus intéressantes parce que chacun va essayer de mettre la barre un petit peu plus haut. Donc nous avons renégocié ce marché. Les candidats sont toujours très proches, mais bon, c'est peut-être un petit peu moins serré que la première fois. Et pour se faire accompagner, on s'est attaché les services d'un consultant extérieur. Donc là, j'ai tout le rapport hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, on en est arrivé, le consultant extérieur nous a proposé le classement suivant, à savoir de retenir en numéro 1 la société Terre et Lac, en numéro 2 c'est la société Voltalia et en numéro 3 c'est la société Reden. Donc, évidemment, nous avons suivi les préconisations du consultant extérieur parce que, bon, c'était le spécialiste de la question. Monsieur Vallée et Madame Bertin, la directrice des services des marchés, ont beaucoup travaillé sur ce dossier. Donc voilà, ce soir, on vous propose de retenir donc la société Terre et Lac.
Et ce consultant extérieur, quel est l'élément qui l'a fait basculer pour cette entreprise ?
Eh bien, si vous voulez, il y a tout un tableau sur les indemnités. Alors, sur les indemnités, Terre et Lac est premier, il propose 30 000, Voltalia 20 000, Reden 10 000. Sur le loyer, Terre et Lac est second, 48 000, Reden est premier avec 65 000. Et Voltalia, troisième, avec 39 200. Ensuite, sur les notes techniques, Terre et Lac est à 35,75, Reden à 30,25 et Voltalia à 33,75. Et sur le planning, Terre et Lac est à 10, Reden à 7 et Voltalia à 9. Donc la note totale, ça donne Terre et Lac. Ah, j'ai sauté une ligne, pardon. Il y a les modalités d'attribution du loyer, notation sur 10, Terre et Lac 8, Reden 9, Voltalia 9. Le total de tout ça, ça donne sur 100, 81,96 pour Terre et Lac, 80,89 pour Voltalia et 79,36 pour Reden. Voilà. Tout le dossier est là, il est à votre disposition. Comme c'est quand même quelque chose d'important pour la ville, on a réuni la commission de délégation de services publics la semaine dernière. Donc, où sont représentés majorité et opposition. Donc, on a réuni cette commission, je crois que c'était mercredi, jeudi dernier. Donc il y a eu une information et un débat autour de ce, autour de cette proposition de la part du cabinet qui nous accompagne. Voilà. C'est bon ? Je pense que c'est un bon projet, hein, pour la ville, plutôt que d'avoir une décharge, comment dire, en friche et qui n'a plus d'utilité publique. On avait semé de l'herbe, pardon. Donc, plutôt que d'avoir une décharge enherbée, on aura donc du photovoltaïque sur, sur la décharge. Et donc, ça rapportera un loyer de 48 000 euros par an, plus une indemnité de 30 000 euros au départ.
Monsieur le maire, je pense que nous irons consulter le dossier dont vous parlez, même si c'est terminé, on est mis devant le fait accompli, mais peu importe, puisque nous n'avons personne... Non, attendez. Nous n'avons personne donc qui fait partie de la commission, donc d'appel d'offres. Non.
Il y a monsieur Milan et madame Ingouglia.
Oui, mais monsieur le maire, je vous rappelle que vous nous aviez dit que nous formions trois groupes différents d'opposition.
D'accord. Très bien, mais fait ça, après c'est un problème de circulation de l'information, mais le dossier est à votre disposition, voilà. Il n'y a aucun problème.
Merci.
Alors, sur cette proposition, donc à savoir retenir la société Terre et Lac pour le photovoltaïque à la décharge, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Alors, dossier suivant, monsieur Giovanni.
Alors, je rappelle à l'Assemblée que les équipements sportifs communaux sont utilisés par les lycées et dans ce cadre, les modalités financières sont fixées par convention entre la commune et la région. Le montant de la participation financière pour l'année 2017-2018 est fixé à 2 593 euros et 40 centimes. Je demande au conseil municipal de l'autoriser à signer la convention relative à la participation financière régionale pour l'utilisation des équipements sportifs municipaux par le lycée professionnel agricole des Alpilles pour l'année scolaire 2017-2018.
Bien, là c'est du grand classique, hein, ça revient toutes les années. Donc sur cette convention, on peut passer aux voix. Qui est contre cette proposition ? Abstention ? Unanimité ? Alors, monsieur Houlet.
Annulation et remplacement de la délibération numéro 18-22 suite à la modification de l'étude Enedis concernant les travaux de circulation réseau moyen de tension, lieu dit les Pralons, parcelle CI 120. Vous vous souvenez, le mois dernier, on avait pris cette délibération. Enedis est revenu sur son étude et nous a renvoyé donc une nouvelle proposition, un nouveau projet. À la place des 23 mètres qu'on avait le mois dernier, on passe à 61 mètres de tranchée, plus une armoire de coupure.
Délibération technique, hein, bon, pas sûr que ça entraîne un long débat. Sur la proposition de M. Houlet, on peut voter. Qui est contre ? Abstention ? Deux abstentions. Adopté. Alors, deux abstentions, Mme Ingouglia, M. Milan. Toujours M. Houlet.
Approbation de l'avant-projet pour l'opération d'aménagement de l'avenue de la Libération, de l'avenue André et Denis Pélissier et de l'éco-hameau du Sol. Avenant numéro 1 à la maîtrise d'œuvre. Nous avions pris un forfait pour la maîtrise d'œuvre d'un montant de 178 417. Après avoir fini tout l'avant-projet, le projet s'élève un peu plus haut que ce qui était prévu, donc le projet est à 3 535 000 euros hors taxes, 1 935 000 pour le budget général de la commune pour la réfection de la 99 et 1 200 000 hors taxes sur le budget annexe au lotissement du sol pour la viabilisation des terrains et carrefour d'accès ainsi que les dossiers d'urbanisme et d'études préalables. Donc, à la suite des phases confiées au maître d'œuvre, le coût prévisionnel définitif des travaux est porté donc à la somme de 3 646 000 euros hors taxes, décomposé comme suit, 2 241 000 euros hors taxes sur le budget général de la commune et 1 406 000 euros hors taxes sur le budget annexe sur le lotissement du sol. suivant l'article 3.2 du CCAP, donc le maître d'œuvre doit toucher son forfait doit être révisé, ce qui le porte aujourd'hui à 190 801,27 euros hors taxes. Ce forfait défini de rémunération de la maîtrise d'œuvre se compose comme suit. Budget de la commune, 90 951,99 euros hors taxes. Budget annexe lotissement, 99 849,28 euros hors taxes.
Merci.
Oui. Monsieur le maire, vous pourriez nous donner un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, parce qu'en fait, là, on est en train de parler de deux projets, ou monsieur Houlet, c'est pareil. On parle donc de deux projets. D'une part, il y a l'avenue de la Libération, et d'autre part, donc, la partie USOL, la partie. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourriez me dire combien est affecté, quelle somme est affectée pour chacun, chaque tranche, si vous voulez, chaque projet?
Et vous l'avez.
Oui, mais en fait, il y a un distinguo là maintenant, il y a un delta. Le montant a été changé.
Oui, mais le montant définitif, je viens de vous le dire. Montant total complet de l'opération, 3 646 000 hors taxes, 2 240 000 pour le budget de la commune, donc ce qui représente tous les travaux aux voiries de la 99, et pour la partie
construction,
1 406 000.
D'accord. Et le mode de financement, on peut le connaître, s'il vous plaît?
On l'a adopté quand on a voté le budget primitif 2018. Ce sont essentiellement des subventions du conseil départemental dans le cadre des contrats.
Sur la fiche 155, il me semble qu'il était noté sur le BP 900 000 euros.
Alors effectivement, il y a des multifinancements, si vous voulez. Sachant que d'un côté, on est sur un budget annexe, le budget du sol, donc qui doit s'équilibrer, sur lequel on a néanmoins demandé des subventions. Certaines, on les a obtenues sur l'achat des terrains il y a plus de 10 ans maintenant. Et sur la partie commune, là, on est dans le cadre contrat avec des demandes de transfert de certaines opérations là-dessus. Voilà. Mais M. Vallée, si vous voulez compléter, je vous en prie.
Les 900 000 euros, c'était la tranche 2018. L'opération 155 pardon, a été votée en APCP, donc en purée annuelle.
Et les 30% donc, qui sont fournis par la commune, vous faites un prêt?
Madame Aoun, vous connaissez le fonctionnement des collectivités. C'est le quatrième budget qu'on vote ensemble. Ou tout au moins qu'on passe en séance. Les emprunts, ils sont globaux. Ils ne sont pas affectés à telle ou telle opération. Sachant que les emprunts, on les inscrit pour équilibrer la section d'investissement en recettes et en dépenses. Mais bon, on les réalise en tant que de besoin. Hein. Si les travaux prennent du retard ou si on ne réalise pas tout ce qu'on a prévu en section d'investissement, on emprunte moins que ce qui est prévu. Et bon, vous le savez, hein, toutes les années, on fait en sorte d'emprunter moins que ce qu'on rembourse dans l'année, ce qui permet à notre commune de se désendetter, ce qu'on fait depuis maintenant 3 mandats successifs.
Oui. Bon. Je dirais réponse très politique, monsieur le maire. Merci.
Une réponse technique, mais je vois pas pourquoi. Je vous dirai pas qu'on désendette notre commune depuis 3 mandats. Écoutez,
Non, mais dites-le parce que c'est vrai qu'on ne l'entend jamais trop.
Ben oui, je le dis, oui, je le dis parce que c'est pas toutes les collectivités qui le font. Et j'ai déjà dit, et je me permets de le répéter ce soir, si tous les gouvernements successifs avaient fait comme à la ville de Saint-Rémy, notre pays serait pas dans la situation où il est. C'est-à-dire si à la fin de leur mandature, ils avaient un stock de dette dans notre pays inférieur à celle qu'ils avaient trouvée quand ils sont arrivés. Ben aujourd'hui, on ne connaîtrait pas la situation qui est malheureusement la nôtre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Mais attendons la fin de ce mandat présidentiel. Peut-être qu'on aura d'agréables surprises.
Souhaitons-le.
Voilà.
Bien, sur cet avant-projet, donc, qui est contre ? Abstention. 8 abstentions. Adopté. Alors, dossier suivant, toujours Monsieur Houlet, les travaux.
Construction d'une piscine couverte, approbation de principe de l'opération, lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre. Il est envisagé la construction d'un bâtiment couvert de 1800 m² environ, avec une façade ouvrant sur un espace extérieur comprenant un bassin couvert de 25 m sur 12,50, un petit bassin de 140 m² environ, une pataugeoire, un espace de détente, un local de rangement pour le matériel, des locaux techniques, des vestiaires, douches, hall, et l'aménagement paysager des abords. L'enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette opération est de 5 millions d'euros hors taxes. Pour la mise en œuvre de ce projet et après sélection du maître d'œuvre, une dévolution des travaux est envisagée en maîtrise d'ouvrage public. Donc on est obligé de lancer, comme on a fait pour l'Alpium, un concours restreint de maîtrise d'œuvre qui va être constitué par d'un jury, on y viendra tout à l'heure. Donc un avis de concours sera lancé par la ville en vue de sélectionner les trois candidats qui devront remettre des prestations au stade de l'esquisse, dite plus, ESQ, sur la base de programme de travaux. Donc le jury après sera là pour examiner toutes les candidatures, on retiendra que trois. Donc le jury sera composé de un membre titulaire, M. Michel Giovannetti, en son suppléant Jean-Pierre Capier, Michel Blanc, son suppléant Jacques Guénaud, M. Pierre Lapierre, son suppléant M. Bernard Marin, M. Yves Nègre, son suppléant Mme Carole Bourdin, M. Henri Milan, son membre suppléant Mme Angeline Ingoguilla. Une fois qu'on a le jury a retenu une des trois maîtres d'œuvre, les marchés nous obligent donc à verser une somme de 20 000 euros aux deux perdants, excuse-moi, entre parenthèses, aux deux qui ne seront pas retenus. C'est une obligation, c'est les marchés qui le prévoient. Et donc voilà, donc je vous demande d'approuver ce projet.
Bien. Au risque de m'entendre dire que c'est très politique, mais bon, c'est un acte force, hein. C'est le lancement du projet de piscine à Saint-Rémy, quoi. C'est pareil, parce que...
Après combien 20
ah non, c'est 5
après 20
millions,
ans, après 20 ans.
5 millions 100 000, c'est sûr
mais
que c'est un gros projet.
Vous n'avez pas peur de vous noyer?
Pardon?
Vous n'avez pas peur de vous noyer?
De me noyer? Pourquoi?
Parce que... Non, mais c'est un programme très lourd. Quand même.
Financièrement,
oui, bien sûr.
Mais on en est tout à fait conscient. C'est pour ça qu'on a longuement pesé le pour et le contre sur ce dossier avant de le lancer. Mais bon, je peux vous dire que nous sommes en capacité financière de lancer ce dossier grâce évidemment à la subvention exceptionnelle de 75% de la part du conseil départemental et peut-être grâce à un complément de subvention pour lequel on va délibérer tout à l'heure, oui. On va demander 5% de plus à l'État.
Et voilà. Excusez-moi.
À la région, pardon.
Pardon. Oui, parce qu'on ne savait plus si c'était 70% le CD là, ou bien si c'était 75%, parce que d'habitude le département ne dépasse pas 70%.
C'est un engagement qui a été pris avant que la loi n'évolue.
Ah, mais Monsieur Guérini?
Probablement, oui. Le contrat, d'accord. Il a été signé en 2000... Quand c'est qu'il a été signé, le contrat? En 2013, quelque chose comme ça, oui, certainement, oui.
Est-ce que vous avez donc chiffré, puisque... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous avez dû chiffrer combien allait coûter l'entretien annuel d'une telle piscine?
Alors, je vais laisser Monsieur... aller répondre, mais il est fort probable que le jour où cette piscine sera réalisée, elle sera considérée comme d'intérêt intercommunal, en espérant qu'il ne soit pas d'intérêt métropolitain. Mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, mais par exemple, tous les enfants, oui. Déjà, tous les scolaires.
Oui, eh bien...
Je suppose que vous ne les ferez pas payer, au moins les enfants de la ville. Parce que si on fait un petit compte, si on fait un petit compte rapide, l'entretien annuel, et encore en étant vraiment en bas de l'échelle, on va dire, on peut compter 300 000 euros à peu près sur une année. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait faire à peu près 60 000 entrées par an à raison de 5 euros par personne. Et donc, on arrive à 5000 entrées par mois et 200 entrées par jour. Donc, je trouve que c'est beaucoup. Alors, même si c'est un projet qui va concerner très certainement les communes alentour. Je me disais que les scolaires donc de Saint-Rémy, normalement, ils vont pas payer. Donc, dans les 200, il faudrait que ce soit des Saint-Rémois ou des extérieurs sans être des scolaires. Et je trouve que la moyenne est élevée. Ça fait beaucoup.
Il y a d'autres...
Devenir Hervé.
Oui. Il y a d'autres équipes.
Ah oui.
Vous savez combien il y a la piscine de Puisaine de Parade, où il n'y a que 5000 habitants, combien il y a de personnes par an?
Ah non, ça, non, je ne sais pas, justement.
Eh bien, il y a plus de 50 000 personnes qui passent dans une piscine de 50 000. Pourtant, une piscine de Parade, il n'y a pas de grande ville à côté. Surtout qu'Aix font une grande piscine. Il y a Venelle, qui est magnifique. Et maintenant, Pertuis. Ils font actuellement 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes.
Et elle est récente, cette piscine?
Elle a été faite en 2010.
Elle a 8 ans.
Ouais.
D'accord.
Ça, c'est pour l'information. Hein.
Oui, oui, non, mais c'est bien, bien sûr, c'est bon.
Le plus intéressant parade, c'est à côté d'Aix.
Et la personne qui nous a raconté ça, elle nous a raconté que sur Saint-Rémy, on peut avoir plus de 50 000 personnes par an.
Oui, il faudrait 60 000, sauf si on les fait payer plus cher. Moi, je suis partie dans le calcul sur la base de 5 euros, mais bon, c'est peut-être pas la bonne...
Madame Aoun, vous oubliez un point important. Deux. Un, ça sera, on l'a dit depuis le départ, cette piscine sera gérée dans le cadre d'une délégation de services publics.
Oui, okay. Premier DSP.
Point.
Oui.
Deuxième point, tous les opérateurs qui ont été intéressés par ce projet, ils nous ont clairement fait savoir que la piscine toute seule, effectivement, c'est difficile à équilibrer et que donc il fallait des activités annexes. Et il ne vous a pas échappé, vous l'avez sous les yeux, hein, qu'il y aura un espace de détente, sauna, hammam, buvette. Et c'est là-dessus où ils arrivent à générer des recettes qui compensent le déficit sur la partie purement piscine. Donc, on fera en sorte de minimiser au maximum le coût résiduel pour la ville ou pour la structure qui portera le projet.
D'accord. Mais là, on parlait donc de la piscine, tu me parlais, mais à Château-Renard, par exemple, aussi, la piscine qui n'a... En fait, ce sont des travaux de rénovation. Hein, 500 000 euros, mais pour le coup, c'est un bassin olympique qui va faire le double de ce que nous allons faire, nous. Hein.
Non, mais Madame Aoun, là, on est sur une piscine couverte. Château-Renard, oui. C'est pas une piscine couverte. Il faut comparer,
oui,
ce qui est comparable.
Bien.
Et Château-Renard, la piscine existe. Donc, il s'agit de travaux de réfection, de réhabilitation. Je ne connais pas très bien ce qui s'est passé à Château, mais on n'est pas, on peut pas, comparer. Là, on part sur un terrain nu, là. Donc,
oui,
et sur une piscine couverte.
Oui, oui. D'accord. Bah, écoutez. Bon, moi, je pense que de toute façon, nous voterons contre parce qu'on trouve que même si c'est un projet que vous jugez vraiment très important, c'est vrai, mais la somme l'est aussi beaucoup. Voilà.
Alors, on s'est tous posé la question hein, sur le montant du projet, effectivement, mais quand même une opportunité à pas laisser passer. On a 75% sûr de subvention, on espère avoir 5%. C'est-à-dire que c'est un projet qui peut être financé à 80%, ça ne se représentera pas deux fois. Si on laisse passer l'opportunité maintenant, on ne pourra pas le rattraper plus tard. Et comme disait Monsieur le maire, elle viendra intercommunale, cette piscine, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même pas mal de discussions au niveau des évolutions institutionnelles, donc ça ne sera pas porté que par la ville de Saint-Rémy. Enfin bon, après, vous votez comme vous voulez, mais moi je pense que c'est vraiment une opportunité, voilà, parce qu'on s'est vraiment tous posé la question, effectivement.
Madame Perrault, il y a un village en France où la piscine neuve n'a jamais été utilisée parce que la municipalité n'a jamais eu les moyens de la faire fonctionner. Donc, je suis d'accord avec vous. Sur le principe de la subvention, pas de problème, mais vous savez tous ici autour de la table que c'est le fonctionnement qui va poser problème. Et j'aimerais revenir à ce sujet sur l'accord a priori verbal que vous avez passé avec les autres communes. Je comprends pas pourquoi le fonctionnement est mutualisé et pas la construction. Pourquoi est-ce que toutes les communes ne participent pas à la construction au prorata de leur intérêt pour cette piscine?
Monsieur Millard, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il n'y a pas eu d'accord ni verbal ni autre avec les autres communes. Ce que je sais et ce que vous savez aussi, c'est que d'ici 2020 ou 2021, le statut de notre intercommunalité va évoluer. Ça, vous le savez. Hein. Bon, le département va disparaître. Ça a été annoncé par le président de la République. C'est pas une surprise. Je vous apprends rien ce soir en disant ça. Donc, au 1er janvier 2021, il y a deux solutions. Ou on sera dans une intercommunalité unique du pays d'Arles qui héritera des compétences départementales. Enfin, en tout cas, je me bats et on se bat pour essayer d'obtenir ça. Il n'y a rien qui est fait. Hein. Soit on sera dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Bon. Dans les deux cas, vu comment dire, l'ampleur de ce projet, je pense qu'il ne sera pas difficile de plaider pour faire reconnaître cette structure comme une structure d'intérêt intercommunautaire. Parce qu'il est évident que le rayonnement de cet équipement ira au-delà de Saint-Rémy. C'est pas comment dire, c'est pas un petit équipement dans un coin, petit équipement de quartier. C'est un équipement où on le sait tous, viendront des enfants, des Ragues, des Galières, de Masblanc, de Saint-Étienne-du-Grèce, voire de Château-Renard, parce que encore une fois, la piscine, elle est pas couverte à Château. Donc l'hiver, il y aura des enfants qui viendront de 20 km à la ronde. Donc je pense que ça sera un équipement largement d'intérêt communautaire. Donc voilà pourquoi je peux me permettre ce soir de dire que, au vu de l'évolution institutionnelle qu'on va connaître, quand cet équipement sera terminé, ça sera 2021 ou même plus
pour les élections.
Certainement 2022. Donc quand cet équipement sera terminé, on ne sera plus sous la forme intercommunale qu'on connaît aujourd'hui. Ça, on le sait tous.
Ça doit évoluer puisque au début on vous l'avait soumis, on avait dit que ce serait quand même bien que cette construction de piscine soit dans le cadre de l'interco, et vous nous aviez dit non mais c'est pas possible, enfin nos collègues des autres villages voudront bien y venir mais sans pour autant participer financièrement, et là je rejoins Henri, c'est un peu dommage quoi, parce que
sous la forme actuelle, madame.
Et je finis en vous disant avec des si on refait le monde, et je pense que la somme est tellement colossale qu'elle nous engage tous et pas pour quelques années. Donc j'ai peur que moi aussi je vais voter contre, et je vous engage simplement à monopoliser les finances de la mairie pour acheter les terrains des cèdres qui eux ont une utilité et qui peuvent rapporter encore plus d'argent à la collectivité.
Compléter ce qu'a dit Monsieur le maire sur l'aspect intercommunal des choses. Effectivement, à l'origine de ce dossier, on avait questionné les communes aux alentours de Saint-Rémy et au-delà des frontières intercommunales. Bon, elles n'avaient pas souhaité s'engager dans l'investissement. Mais pour revenir sur vos remarques, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est la commune qui porte, il y a le contrat, Gisèle Ravez l'a dit, il y a la volonté communale, mais il y a une autre raison que vous connaissez fort bien, puisque vous siégez à l'intercommunalité, c'est que l'intercommunalité, elle n'a pas la compétence pour porter des projets d'équipement culturel ou sportif. Donc c'est une des raisons, au-delà de la raison politique, c'est une des raisons élémentaires et juridiques qui font qu'on ne peut pas demander à l'intercommunalité d'investir dans cet équipement. Demain, les règles vont changer. Vous savez comme moi que tout ça est très mouvant en ce moment. Demain, les règles vont changer et peut-être que l'intercommunalité pourra le porter. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Si on vous le présentait en séance intercommunale, vous auriez tout le loisir de le dénoncer en disant que ce n'est pas une délibération légale.
Mais je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Favergeon. Et donc, je vous demande, puisque a priori, vous êtes extrêmement au courant et très intelligent, je rajoute, pourquoi les autres maires n'ont pas voulu jouer le jeu? Pourquoi? Alors, ils ne sont pas obligés de rester dans le cadre intercommunal pour participer à cette opération-là. Ils peuvent très bien le faire directement.
Mais Monsieur Milan, je vais répéter
ce que vous avez dit. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils considèrent que ce ne sera jamais rentable et que c'est un gouffre.
Monsieur Milan, je vais répéter sous une autre forme ce qu'a excellemment dit Yves Favergeon. Aujourd'hui, nous sommes une communauté de communes. Une communauté de communes, elle a un certain nombre de compétences beaucoup plus restreintes que les compétences d'une communauté d'agglomération ou a fortiori d'une métropole où là, il ne reste plus rien pour les communes. Bien. Donc, si demain on change de statut, c'est-à-dire si on est communauté d'agglo ou a fortiori métropole, il y a une des compétences qui est gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Eh bien, ça rentrera dans ce cadre, ce qui aujourd'hui ne figure pas dans les statuts de l'intercommunalité. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est pas intercommunal, mais voilà pourquoi demain ça le sera très 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 probablement. Donc ça. plus ce qu'a dit là aussi excellemment Gisèle Ravez, les 75 ou 80% de subventions qu'on n'aura plus jamais, vous le savez aussi bien que moi, on ne les aura plus jamais, le département va disparaître et derrière les choses ne se passeront plus comme avant. Donc si on ne saisit pas cette opportunité aujourd'hui pour les Saint-Rémois, il n'y aura plus jamais de piscine couverte à Saint-Rémy parce que la collectivité n'aura pas les moyens de sortir 5 millions d'euros. Là, sur 5 millions d'euros, on va en sortir au maximum 1 million 250 et au minimum 1 million. Je pense que ça vaut quand même la peine. Donc,
Monsieur Cherubini,
vous êtes frileux, vous ne pouvez pas bouger, nous, on se mouille.
Je pense pas que la mairie de Château-Renard a attendu d'avoir les aides du conseil départemental, appelé conseil général à l'époque, pour faire sa piscine. Donc, ça veut dire qu'ils avaient les moyens. Donc, vous nous parlez à longueur de conseil municipal, de l'excellente gestion financière de la commune. A priori, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Versus la baisse des subventions aux associations. Mais, là où je veux en venir et pour en finir, c'est que vous faites un pari. Vous faites un pari. Vous engagez une démarche sans retour en faisant un pari qui peut marcher. Mais vous êtes comptable des deniers de la collectivité. Et moi, en tant que conseiller et municipal, je ne peux pas me contenter d'un pari. Et donc, je voterai contre, je vous le dis.
Mais c'est tout à fait votre droit, Monsieur Milan. Vous pouvez tout à fait voter contre.
Et j'espère que je le regretterai.
Monsieur Milan, est-ce qu'il a été annoncé, oui ou non, que le département allait disparaître? Oui.
Alors écoutez, à ce jour-là, même au département, ils n'en savent rien. Et je ne vous apprends rien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que votre principe de rejoindre une collectivité comme le Pays d'Arles, en pensant qu'elle fera pièce à la décision gouvernementale de nous rallier ou pas au reste du département, c'est au contraire faire le lit du préfet qui n'aura plus qu'une seule interco à fondre plutôt que d'en avoir trois. Et je pense que c'est une erreur de rejoindre et de faire qu'une seule interco parce qu'à ce moment-là, on sera intégré à la métropole dans le Pays d'Arles. Donc on aura la double peine de subir Arles et de subir Marseille.
Monsieur Milan, on en a déjà parlé, je vais vous le répéter, parce que visiblement, bon...
Mais c'est la jurisprudence gouvernementale que j'invoque, c'est pas, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, vous savez très bien comment ça se passe.
C'était unique, on l'a fait précisément pour éviter de rentrer dans la métropole et pour nous permettre d'hériter des compétences départementales si demain le département disparaît. On ne fait pas une intercommunalité unique pour faire une intercommunalité unique pour un an après à nouveau changer de statut et rentrer dans la métropole,
oui.
Vous savez très bien ça.
Et c'est les services préfectoraux qui vous remercient par avance, d'avoir affaire qu'à un seul bloc plutôt qu'à trois. C'est une erreur.
Je vous rappelle qu'on n'a pas délibéré encore et qu'on ne vous a pas présenté la délibération. Et le jour où on vous la présentera, on essaiera de faire en sorte d'avoir des garanties que les choses se passent comme on le souhaite derrière. Mais ça, c'est un autre débat. On en reparlera. Entre parenthèses, on n'est pas, on n'est pas contre les soutiens dans les combats qu'on mène. Hein. Voilà.
Monsieur le maire.
Votre combat, je vous le dis.
Comment ?
Je peux dire.
De ne pas rentrer dans la métropole ?
Non, je dis c'est votre combat. Mais c'est votre combat, ce n'est pas le mien, monsieur Cherubini. Moi, je ne serais même pas rentré dans l'intercommunalité. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Je pense que vous en rappelez.
Mais on peut très bien dire je ne respecte pas la loi, ça.
Mais vous. Bien sûr, c'est ce que vous faites. Je vous l'ai déjà dit aussi. Vous le savez avec quoi ?
Rentrer dans l'interco, c'est obligatoire depuis la loi RECT de 2010, si ma mémoire est bonne. Toutes les communes de France, au 1er janvier 2014, devaient être membres d'une intercommunalité. Donc voilà, donc, quand vous me dites, je serais même pas rentré dans l'intercommunalité, moi je veux bien. Mais
Eh bien alors, donc, si vous rentrez dans l'intercommunalité, donc vous connaissez les avantages et les inconvénients aujourd'hui. Et vous nous dites que ça sera pire au-dessus, et vous avez raison, c'est que au final, pourquoi refuser le troisième pas quand on a déjà fait le premier?
Bon, on va revenir à la piscine, ouais. Il y a Michel Bonnet qui voulait intervenir.
Bon, juste rappeler qu'une donnée qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rappeler, c'est que on n'a plus de piscine aujourd'hui à Saint-Rémy-de-Provence. Et entre une piscine découverte et une piscine couverte, la question s'est aussi posée, on a choisi l'occasion unique de faire une piscine, de proposer une piscine couverte, parce qu'on a les subventions, comme ça a été rappelé justement, et puis aussi parce que la piscine couverte va sans doute être plus rentable qu'une piscine découverte. Les piscines piscines découvertes, il y a de nombreuses communes qui en ont, des piscines découvertes, sur 20-30 km à la ronde, grosso modo, il n'y en a pas. Donc on a quand même une zone de clientèle qui est importante et qui est bien sûr prise en compte dans ce projet. Et historiquement, on a cette responsabilité d'y aller, parce qu'on n'aura effectivement jamais plus l'occasion de formuler un projet pareil. Et dans la mesure où on peut avoir l'espoir légitime que ce soit pris en compte dans une logique d'intercommunalité un jour, et un jour assez proche, c'est un argument supplémentaire pour oser effectivement ce projet.
Michel, j'aurais été prêt à voter pour une piscine découverte, malgré les frais, malgré les... Parce que il est évident qu'il y a des gamins dans cette ville et ailleurs autour qui ont besoin et qui n'ont pas de piscine privée. D'accord ? Mais là, on va multiplier les frais de fonctionnement, et au même titre que pour l'Alpidium, où on a dépensé des fortunes et voyez la rentabilité qui est pathétique, et pas seulement à cause de vous, vous le saviez, nous le savions tous, la piscine, ça sera pareil. Ça sera pareil. Et donc, quelque part, ça va rajouter des frais supplémentaires que les SUR et moi supporteront. Voilà, c'est tout. Et je suis contre, je vous le dis.
Sauf que la piscine couverte, on a une chance de la faire mutualiser, et on y compte bien au niveau des frais, et que la piscine découverte, elle revenait que à Saint-Rémy-de-Provence, puisque de nombreuses communes ont leur propre piscine découverte.
Vous avez raison, c'est un pari.
Est-ce qu'à titre personnel, alors là c'est pas l'élu qui parle, c'est la simple petite personne que je suis, habitante de Saint-Rémy, il y a énormément de gamins qui n'ont pas de piscine et qui sont contents de trouver une piscine l'été, mais moi à titre personnel je ne vais pas nager dans les villes extérieures. Par contre, si à Saint-Rémy l'hiver je peux prendre mon maillot et aller piquer une tête et nager quelques longueurs pour pas avoir mal au dos, je l'apprécierai et je pense que je ne serai pas la seule.
Vous avez raison, Madame Vidal. Madame, excusez-moi. Vous avez raison, mais excusez-moi, Denise. Vous comptez dépenser combien par jour pour aller nager l'hiver ?
Le prix, alors là vous êtes mal placé avec moi, parce que moi, quel que soit le prix, entre dépenser pour aller nager ou prendre des cachets parce que je souffre du dos, je préfère dépenser pour aller nager.
Donc ça sera une piscine médicalisée.
Bon, on n'a pas de cure pour les vieux. Excusez-moi, juste dernière chose. Vous pensez pouvoir avoir les 250 000 euros du contrat régional ou pas ?
On les demande, Madame Aoun. On les
demande. Non, mais vous avez l'air très optimiste pour les 75% donc du CD. Vous pourriez peut-être être optimiste pour les 250 000 de la région.
Alors attendez. Les 75% du conseil départemental, ils ont été votés, approuvés et tout, signés, très bien. Le CRET, c'est une demande de la part de la collectivité. Moi, tant que je n'ai pas l'arrêté d'attribution, je suis prudent. Hein. Mm. Voilà. Quant au coût de fonctionnement de cette structure, quand bien même, on ne rentrerait pas dans... on resterait dans la même intercommunalité. On a fait face au cours de ce mandat à 1 300 000 euros de baisse de dotation de la part de l'État. Malgré ce, on n'a pas touché à la fiscalité, on arrive à désendetter la commune et on tient nos engagements d'investissement. Grâce à une politique extrêmement rigoureuse en fonctionnement, la suppression d'une quinzaine de postes, etc., etc., sur le mandat.
Et les parkings payants,
hein. 1 300 000 euros de baisse de dotation. C'est pas les 150 ou 200 000 euros que vont coûter cet équipement qui m'inquiète. Hein. Encore une fois, on a fait face à 10 fois plus comme difficulté. Donc je pense que la ville de Saint-Rémy a tout à fait les moyens d'assumer cet investissement et ce fonctionnement derrière, d'autant plus qu'encore une fois, il y a de très très fortes probabilités pour que les choses évoluent.
Si on peut obtenir... Enfin, en fait, actuellement, ce qui aide énormément Saint-Rémy, ce sont la participation du conseil départemental quand même, chaque fois pour tous les... Ben oui, non mais bon, on ne sait pas comment ça va tourner, mais pour le moment, on a vraiment eu des aides très importantes.
Ah, je n'ai jamais dit, merci Madame Aouna, tout à fait d'accord. Oui. Bien, alors, maintenant il s'agit de voter pour l'approbation du principe de cette opération, donc construction d'une piscine. Qui est contre ?
S'il vous plaît, monsieur le maire, dans la fiche 155 du budget primitif, nous avions pour la piscine 25 000 euros prévus pour les frais d'études. Après, on avait... J'ai peut-être pas bien en tête le budget primitif, mais on avait prévu autre chose.
Non, c'est 25 000 euros qui sont prévus pour les premières études. L'essentiel des dépenses commencera à partir de 2019, une fois qu'on aura choisi le jury de maîtrise d'œuvre.
D'accord. Ça veut dire que la maîtrise d'œuvre que vous devez donner 20 000 euros à chaque participant, ça va faire une moyenne de 60 000 euros. Comment vous allez pouvoir le régler alors si le budget est de 25 000 ?
Ça sera en 2019, madame Pascal.
Bon, ça sera plus tard, d'accord.
Le lauréat du concours de maîtrise d'œuvre, ça ne sera pas avant le deuxième semestre 2019. Donc, ça ne portera pas sur les finances 2018. Bien, on va recommencer donc les opérations de vote. Sur cette construction d'une piscine, donc approbation du principe de l'opération, qui est contre ? 8 contre ? Abstention ? Adopté. Ensuite, monsieur Houlet.
Passer une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, d'entretien, d'exploitation partielle du domaine public routier et de financement par subvention ou fonds de concours pour la 99. Je ne vais pas y revenir, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le département pourrait financer au financement de ce projet en ce qui concerne l'enrobé et une partie des bordures. Cette participation est définie à partir des éléments du projet auxquels le département applique le prix des marchés, qu'il passe par ses propres besoins. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, ainsi que les conditions d'entretien et d'exploitation partielle du domaine public routier départemental et ses dépendances. Le conseil départemental a pour habitude de traiter ce type d'opération au travers d'une convention globale, vous l'avez en pièce jointe.
Monsieur Houlet, donc si je résume la situation, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de gérer ce dossier nous-mêmes. Et que, quelque part, finalement, la métropole et Marseille, ça a du bon, non ?
Monsieur Milan, c'est pas qu'on n'est pas capable de traiter ce dossier. C'est une route 99. En passant à la convention, on peut avoir, comme je viens de dire, une participation financière qui n'est pas des moindres parce qu'elle est quand même évaluée entre 180 et 200 000 euros aujourd'hui. Donc je pense qu'on va pas y cracher dessus, quoi.
Non, de toute manière, c'est une remarque amusée. Hein. Monsieur le maire a bien compris.
C'était une plaisanterie. D'accord. Bien. Alors, sur cette proposition de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, qui est contre ? Abstention ? Unanimité.
Excusez-moi, monsieur le maire, oui. Les lignes seront enterrées, j'espère.
Alors, les lignes seront enterrées, j'espère. Madame Mazuy ? Oui. Oui.
Alors, d'abord, pour répondre à la question de monsieur Milan, il s'agit d'un transfert de maîtrise d'ouvrage du département vers la commune, puisque c'est une route départementale, donc la route appartient au département, et elle nous transfère sa maîtrise d'ouvrage pour que nous puissions faire des travaux en lieu et place. En ce qui concerne l'enfouissement des réseaux, il y aura prochainement une délibération pour faire cette opération avec le SMED, qui sera maître d'ouvrage pour l'opération des réseaux électriques et France Télécom. Orange, pardon.
Alors, sur cette proposition de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, qui est contre ? On a voté, la question est arrivée après, pardon. Ok, autant pour moi. Alors, on passe maintenant en culture patrimoine. Monsieur Colombé.
Oui, bonsoir. La délibération concerne le prix Robert Leroy. Donc, en 2015, l'Assemblée avait créé le prix Robert Leroy, qui avait pour but de couronner une étude originale et inédite portant sur la période allant de l'Antiquité à nos jours, voire une biographie sur Saint-Rémy de Provence. Donc, c'est un prix sur deux ans qui consiste sur une somme de 2 500 euros. Donc, ce prix. Pour décerner ce prix, donc, il y a un jury, et je vous demande de vous référer à l'article 4, donc, qui consistait de 9 personnes. Donc, alors, je demande au conseil municipal de valider le règlement intérieur du prix Robert Leroy, décerné par la ville de Saint-Rémy, et d'accepter le versement des 2 500 € au lauréat du prix, sachant que ces 2 500 € permettront la publication de cette étude par la ville de Saint-Rémy dans une collection spécialement créée à cet effet.
Monsieur Colombet, dans ce jury, il y aura 2 élus de la municipalité.
Exactement.
Et pour l'instant, le choix que vous avez fait, c'est 2 élus de la majorité.
Exactement.
Et je vous propose, dans un esprit de démocratie participative, de considérer la candidature, dans mon ancien groupe, de la responsable de la culture, Madame Mingolia.
Mais c'est à la proportionnelle.
Comment ?
C'est à la proportionnelle. Il y a deux.
Ah ben alors, si vous voulez qu'on passe à la proportionnelle, nous sommes à 50-50.
Ah non.
Ah si.
Ah non, mais sur l'ensemble du conseil
municipal. Vous êtes à 50,23 voix près.
Écoutez, sur l'ensemble du conseil municipal, donc 2 sièges sont attribués à, comment dire, à...
C'est pas la proportionnelle, c'est le fait du prince. Non. Et grâce à la loi nationale.
Monsieur Milan, vous savez, on en a parlé en début de mandat, les proportions là, c'est 3 quarts, 1 quart. C'est qu'à partir de 4 qu'il y a une place. Bon, vous savez, on ne peut pas refaire le débat systématiquement.
Oui, mais enfin.
Bon, après.
Non, que vous en pensez.
Après, si M. Colombet trouve un moyen d'associer hors conseil municipal Mme Ingoglia, moi je n'y vois aucun inconvénient. Hein. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas un problème de personne. C'est, on en a parlé en début de mandat. Enfin, au bout de 4 ans, remettre en cause les équilibres de départ, quoi. Ceci dit, c'est une bonne initiative, ce prix Robert Leroy. C'est une bonne chose. Bien.
Si j'ai l'assurance de M. Colombet et de Mme Lobry de faire une petite place à Angéline Ingolia, pourquoi pas ? Pourquoi pas voter
Monsieur Milan, vous avez fait remarquer tout à l'heure que la proportionnelle fait que vous êtes assis sur le côté et qu'en face, c'est Monsieur le maire. Donc, Gabriel a demandé quelque chose. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Vous vous abstenez ? Merci.
Je ne savais pas qu'on avait un nouveau maire, mais bon.
Bon, allez. Je vous propose
de
passer aux voix sur l'instauration de ce prix Robert Leroy. Alors, qui est contre ? 2 contre. Abstention ? Pas d'abstention. Adopté. Ensuite, Madame Lobry.
Oui, bonsoir. Donc la délibération suivante est la délibération qui concerne le renouvellement de la carte ambassadeur. Suite à la validation de la création de la carte ambassadeur nous concernant en 2017, la convention est arrivée à son terme. Et au vu de la satisfaction des quatre sites concernant la carte ambassadeur, sites qui sont le Centre des Monuments Nationaux, donc Glanhomme et l'Hôtel de Sade, le musée Estrine et le musée des Alpilles, ainsi que les établissements Saint-Paul. Donc il y a à peu près 735 cartes ambassadeurs. Donc je pense qu'effectivement c'est très 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 positif. Je vous rappelle que le but de la carte ambassadeur est de promouvoir le riche patrimoine de notre collectivité auprès de ses habitants et de faire participer ces derniers à sa connaissance. Et donc je vous confirme qu'à ce jour, 735 cartes ont été délivrées. Donc évidemment, si d'autres partenaires le désirent, ils peuvent toujours participer à cette initiative. Je vous demande en conséquence de bien vouloir accepter le principe toujours de la gratuité d'accès pour les Saint-Rémois dans les lieux patrimoniaux et culturels visés par cette convention et d'adopter également le principe de cette convention et sa prorogation jusqu'au 18 juin 2021. Je vous remercie. Simplement, j'ajoute une petite chose, c'est que la démarche concernant la carte ambassadeur reste la même, c'est-à-dire que le Saint-Rémois qui souhaite avoir cette carte doit se rendre au musée des Alpilles pour demander soit sa première carte, soit son renouvellement. Merci.
Très bien. On peut passer au voix cette convention. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité. On poursuit avec Madame Lobry.
Donc là, il s'agit d'une délibération habituelle. Depuis 2010, il existe les ateliers projets classe patrimoine qui dépendent du parc national régional des Alpilles. Et le musée des Alpilles sert de coordonnateur. Donc, comme tous les ans, nous demandons une subvention donc au parc national régional des Alpilles, subvention qui se monte exactement au prix de la classe patrimoine, soit de 810 euros. Cette année, ce sera une classe de l'école de Saint-Martin-de-Crau et une classe, bien sûr, toujours de Saint-Rémy, de l'école de la République. C'est la classe de Monsieur Jouve. Donc je demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter le financement auprès du parc de 810 euros pour les interventions pédagogiques, artistiques, culturelles et environnementales du projet. Merci beaucoup.
Je pensais que c'était l'école Saint-Martin, moi tout simplement. Et c'est Saint-Martin-de-Crau, bon d'accord.
Bien, sur cette demande de financement, est-ce qu'il y a des oppositions, est-ce qu'il y a des contres? Abstention, unanimité. On passe maintenant au dossier, il n'y en a qu'un, environnement, monsieur Lapeyre.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est dans le cadre de l'amélioration de la forêt communale, on fait une demande de subvention au département. En mars 2018, l'ONF a transmis à notre commune un rapport faisant état du dépérissement d'environ 6 hectares du peuplement forestier du fait d'une attaque de scolytes et préconise de couper et d'enlever les arbres atteints. Le secteur concerné se trouve dans le périmètre de l'arrêté de biotope, de protection du biotope de la COM, où les travaux ne sont autorisés que du 2e dimanche de septembre au 31 décembre. Les travaux d'abattage, puis de broyage, seront donc réalisés durant la deuxième semestre 2018. Je propose à l'Assemblée de solliciter une aide du département des Bouches-du-Rhône pour cette opération. Coût estimatif hors taxe, 6 600 euros. Conseil départemental, 40%, 2 640 euros. Commune et autres, 3 960 euros. Je demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter une aide financière du département des Bouches-du-Rhône à la hauteur de 40% pour une coupe sanitaire et d'amélioration de la forêt communale et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Merci.
Merci.
Une question. Le type d'arbre touché par ces insectes, a priori, c'est tous les arbres ou c'est uniquement les pins?
C'est en particulier les pins maritimes. Parce que c'est des pins qui avaient été plantés il y a entre 20 et 30 ans. Jusque-là, ils avaient supporté la sécheresse. Là, entre la sécheresse et l'attaque des scolytes, ces pins maritimes, ils sont, pour ainsi dire, atteints en grosse partie.
Et donc, lorsque vous allez procéder à l'abattage, vous allez laisser les autres essences en place?
On va laisser les autres essences en place. Si elles ne sont pas atteintes, bien sûr, oui.
D'accord.
Demande de subvention. Qui est contre? Pas de contre. Abstention. Unanimité. Merci. Alors, le gros dossier finance maintenant. Donc, première délibération, il s'agit de l'extension du système de vidéoprotection et on vous propose une demande de subvention au département. Donc, ce serait pour l'installation d'une caméra à la salle Jean Massé. Ce qui porterait à une trentaine le nombre de caméras sur la ville de Saint-Rémy. Voilà. Pas de remarques particulières. Alors sur cette demande de...
Oui. Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers qui font que ce quartier a besoin d'une vidéosurveillance ou c'était prévu?
Non, c'est... on poursuit. Il n'y a pas d'urgence particulière, mais on poursuit l'équipement de toutes les places. Et vous savez qu'il y a un parking à la salle Jean Massé, de toutes les places et de tous les parkings. Voilà, vous savez comment on fonctionne. Hein, on demande leur avis à la gendarmerie et à la police municipale. Ils font des propositions à la collectivité et à raison de 2, 3, 5, en fait, ça dépend un peu des années et du coût d'installation. Parfois, c'est plus ou moins coûteux en fonction des distances. Eh bien, petit à petit, on équipe Saint-Rémy et bon, On en est déjà une trentaine, ce qui commence à être un chiffre, comment dire, conséquent. Voilà.
Oui, parce qu'il me semble qu'un soir, nous avions quelque chose à la salle Jean Massé et il y avait eu des vols dans les vestiaires alors qu'on était là, donc, et dans les toilettes, enfin bon. Donc,
je ne vous ai pas dit qu'il n'y a jamais eu d'incident à la salle Jean Massé. Heureusement, il y en a eu.
Non, non.
Bien, sur cette demande de subvention, on peut délibérer. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Alors, une autre demande de subvention, là il s'agit d'un dispositif départemental à nouveau, donc c'est pour l'équipement de salles de spectacle. Vous avez donc dans la délibération ce qu'on pourrait demander pour l'équipement de la salle de l'Alpilium. Voilà, donc plan de financement, on pourrait obtenir 40% de la part du conseiller départemental et le reste l'autofinancement, 60%, c'est la commune, sur un coût estimatif de 21 000 euros.
Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur l'acquisition d'un retour de scène ? C'est quoi un retour de scène ?
Monsieur Martin, Madame Lebruy, je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. Monsieur Martin ?
Les retours de scène, c'est tout simplement les systèmes amplifiés. Quand on est sur un spectacle amplifié, c'est ce qui permet aux artistes en fait d'avoir le retour direct et de mieux entendre. Voilà. Donc, en fait, c'est un dispositif qu'on n'a pas et qu'on loue quand on est sur des spectacles amplifiés.
Ce qui générera des économies en fonctionnement pour la collectivité parce que ça permettra de ne plus avoir à les louer. Et effectivement, c'est assez coûteux. Bien, sur cette demande de subvention, alors qui est contre ? Abstention, unanimité. À nouveau, une demande de subvention. Donc, vous savez que cette année est une année particulière. C'est le centenaire de l'armistice 14-18. Donc, on vous propose une demande de subvention au conseil départemental à hauteur de 70%. Alors, pourquoi 70%? Parce que c'est le dispositif qui a été voté tel quel par le conseil départemental. Et ça nous permettrait de réhabiliter l'ossuaire des soldats des guerres 14-18 et 39-45. Qui est situé au milieu du cimetière municipal. Donc on est sur des petites sommes, mais bon, dans la mesure où il y a un dispositif départemental, pourquoi s'en priver, hein ? Donc coût estimatif 1 806,50 €, qui pourrait être financé à hauteur de 70%, 1 264,55 € par le département, les 30% restants, l'autofinancement, 541,95 €, pour la commune. C'est bon ? Alors qui est contre cette demande de subvention ? Abstention ? Unanimité. Alors, nous revenons à la piscine. C'est la deuxième longueur de bassin, cette fois, pour la demande de subvention au conseil régional, donc dispositif Crète. Donc, vous avez le plan de financement sous les yeux. Hein. Donc, Crète PACA, 5%, conseil départemental, 75%, les 20% restants, donc, ce sont évidemment l'autofinancement minimal hein, que doit mettre la commune. On ne peut pas obtenir plus de 80% de subvention, vous le savez. Donc on demande les 5% complémentaires pour atteindre les 80%. Bon, le débat a déjà eu lieu. On peut passer aux voix. Alors, qui est contre cette demande de subvention ? Vous êtes contre la demande de subvention ? C'est une première.
Monsieur le maire, vous éviter une erreur majeure. Nous vous supplions du haut de notre proportionnel.
Je pense très sincèrement, M. Milan, que sur ce dossier piscine, vous avez tort. Je pense vraiment qu'il faut se saisir l'opportunité d'avoir cet équipement à Saint-Rémy. On sera la seule commune à 30 km à la ronde. Donc, bon. Mais bon.
Que Dieu vous entende.
Je le respecte. Alors, sur cette demande de subvention, 8 contre, c'est ça ? Abstention ? Adopté ? Ensuite, le dispositif d'aide aux travaux de proximité que vous connaissez, hein, je ne vais pas répéter, 85 000 euros, 70% du conseil départemental. Vous connaissez, ça fait plusieurs années qu'on délibère là-dessus. Alors, on vous propose 3 travaux. D'abord, les travaux sur le barrage du Pérou. Ce sont des travaux de mise en sécurité du barrage. Donc, il est urgent de les faire parce que, bon, on a traîné, on est relancé par la préfecture. Bon, cette année, il faut absolument qu'on les réalise. Donc, la ville demande la subvention. La ville va réaliser les travaux avec, j'espère, l'aide financière du conseil départemental. Et nous signerons entre-temps une convention avec la communauté de communes, puisque je vous rappelle que la compétence GEMAPI gestion des eaux, milieu aquatique, prévention des inondations, donc la compétence GEMAPI est une compétence intercommunale depuis le 1er janvier 2018. Donc le barrage, c'est l'interco, mais comme c'est la commune qui a travaillé beaucoup dessus, qui a les agents qui connaissent le dossier, etc., etc., la commune va faire, elle va payer, et l'interco derrière remboursera en déduisant évidemment les subventions. Voilà donc pour la première demande. La deuxième demande, il s'agit de travaux d'amélioration des infrastructures sportives des tennis municipaux. C'est un dossier qu'on avait proposé en 2017, mais qui n'avait pas été retenu, c'est d'autres qui ont été retenus, par le conseil départemental, donc on le repropose en 2018. Et le troisième dossier, il s'agit de travaux de réhabilitation du parcours nature. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fréquenté récemment, mais bon, il y en a bien besoin. Hein. Les équipements sont particulièrement dégradés, donc il faut absolument qu'on le fasse. Et j'irai jusqu'à dire que même si, ce que je ne souhaite pas, mais même si on n'obtenait pas les financements du département, je pense que ces travaux, il faut les faire. Il y en a pour 14 000 euros. Bon, ça ne mettra pas en péril les finances communales, mais vu l'état des équipements, il faudra qu'on le fasse. Mais bon, on demande néanmoins une subvention, bien évidemment. Voilà, donc, sur ces trois demandes d'aide aux travaux de proximité.
Oui. Monsieur le maire, si je compte bien, donc, sur une année, on a droit à 7 projets de travaux de proximité de la part du conseil départemental. Là, on en a fait 2 en janvier. On a voté une délibération pour 2 projets demandés. Et là, 3 aujourd'hui. Donc, ça fait 5. Et nous ne sommes que au mois de mai, ce qui voudrait dire qu'il ne reste que 2 possibilités pour la fin de l'année. Ça fait rien. Vous pensez que dans les 7 mois à venir, nous n'aurons pas besoin de plus que de 2 demandes de projets?
Madame Amoun, je vous rappelle que le budget primitif 2018 a été voté et que donc on sait à quoi s'attendre cette année en termes de travaux programmés et de demandes de financement. Hein.
Non, mais là, on parle que de travaux de proximité, on est d'accord. Hein?
Oui, mais bon, on ne va pas inventer des travaux supplémentaires tous les mois. On est dans un cadre budgétaire défini. Donc, tout ce dont on vous parle, là, c'est au budget primitif 2018. Quant aux 7 travaux auxquels on a droit, ce n'est pas, c'est pas la règle. Hein? C'est le conseil départemental qui décide. Hein? Combien on en a eu l'année dernière, M. Vallée?
L'année dernière, on a eu 2 dossiers acceptés. Effectivement, il y a la possibilité d'en déposer un maximum de 7. 5, c'est un nombre raisonnable.
Oui, non, mais je suis d'accord. Donc, c'est bien ça. C'est 7 au total de présenter au département, donc sur l'année.
Oui, mais c'est pas 7 qui sont forcément retenus.
Ah ben ça, je vous ai pas dit ça, monsieur le maire. Je vous ai dit, nous n'avons droit qu'à 7 demandes. De.
Ok, eh ben, on est à 5, effectivement, vous avez raison.
Bon.
Donc, on en demandera encore 2, peut-être, mais bon, pas certain. Hein. En fonction des réponses que nous aurons.
Merci.
Voilà. Alors, sur cette demande, on n'a pas délibéré, je crois. Alors, qui est contre ces 3 demandes? Abstention? Unanimité. Ah, dossier suivant, Madame Ravez. Dossier passionnant.
Oui, cette délibération concerne donc l'approvisionnement en eau brute du quartier du Mas-Nicolas. Donc, pour rappel, il s'agit de la station de pompage qu'on appelle son pompage de Mas-Nicolas. En fait, il y a deux pompes qui est sur le terrain du camping, qui nous avait causé pas mal de soucis les années précédentes, puisqu'on avait des relations tendues avec le propriétaire du camping qui empêchait l'accès aux pompes. Mais je ne vais pas refaire l'histoire. Toujours est-il que c'est parti de là, la réflexion, et qu'entre-temps, il se trouve que ces pompes et l'approvisionnement en eau étaient gérés donc, par la CERC, qui auparavant avait tous les contrats d'approvisionnement d'eau potable et d'assainissement de la commune, entre autres, donc ça remonte à pas mal de temps, via une convention qui datait de plus de 30 ans, enfin je regarde Mathilde, parce que cette délibération est l'objet de plusieurs mois de travail et de recherche dans les archives. Et de réunions, voilà. Et donc, on avait déjà délibéré l'année dernière pour acter le fait qu'on mettait fin au contrat de la CERC, qui voulait plus s'occuper de notre station. Donc, du coup, on a réuni les usagers pour expliquer un petit peu la situation, leur présenter les coûts, et donc leur dire que, bon, on fournissait toujours l'eau brute comme il pouvait y avoir droit, mais à prix coûtant. Hein. Et donc, on leur a proposé le prix qui vous est proposé sur la délibération, c'est-à-dire 2,80 € le mètre cube, ce qui correspond, en fait, aux frais réel, sans compter le personnel municipal, hein, ni l'électricité, puisqu'en fait, pour l'instant, il y a un arrangement avec le camping. Donc, ça revient à 2,80 € le mètre cube. Sachant qu'avant de vous présenter cette délibération, on a fait deux réunions avec les usagers, qui ont présenté les chiffres et ce que ça allait leur coûter. Et il y a, à ma connaissance, genre de Mathilde, que deux usagers sur la cinquantaine qui ont finalement refusé à ce tarif-là d'avoir un abonnement. Sachant toujours pour information, en fait, pour faire réduire les coûts, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'usagers, hein, parce que c'est forcément, on a des coûts fixes assez élevés. Donc là, on n'a que 47 usagers de mémoire. Il y a moins de 9 hectares arrosés, dont 3 rien que sur la commune. Donc c'est assez élevé quand même pour un prix en eau brute, mais c'est de sous-pression. Donc sachant qu'en fait, on a fait un courrier à tous les usagers qu'on connaissait, et plus ceux dont on savait qu'ils avaient un compteur sur leur terrain, pour les informer quand même de cet approvisionnement en eau brute, parce que plus on est nombreux, et moins ça coûte cher. Voilà, donc là, c'est une délibération qui était proposée cette année. L'année prochaine, on redélibérera, puisqu'en fonction du nombre d'usagers, s'il y en a plus, ben, le coût diminuera, s'il y en a moins, ça augmentera. Voilà, c'est variable en fonction du coût réel.
Merci pour ces explications. Quel est l'arrangement avec le camping concernant l'électricité ?
Uniquement, pour l'instant, c'est le même compteur, en fait, qui avait comme il était sur le camping, on n'a pas de compteur différencié. Donc l'électricité est prise en charge par le camping pour le moment.
D'accord. Et il peut se servir de l'eau brute, lui aussi, ou pas ?
Alors, je ne sais plus, je regarde Mathilde, parce que la canalisation marche plus sur son en partie. Hein, je voulais...
Le camping a eu des difficultés d'approvisionnement en eau brute par la CERC qui ne faisait pas tout à fait son travail correctement, et il a acheté un terrain qui est situé vraiment le long du canal des Alpines et qui est mitoyen du camping, qui avait son propre pompage. Donc il privilégie en fait sa pompe qu'il a sur un petit terrain qui est mitoyen, et il n'utilise pas vraiment l'eau qui provient de la pompe qui appartient à la commune.
Et il paye l'électricité ?
Et il paye l'électricité.
Il faut lui remettre la médaille de la ville.
Très bonne relation avec le propriétaire actuel du camping de Mazenod-Nicolas, qui nous facilite vraiment grandement la tâche, puisqu'on est rentré sous sa propriété, on est allé voir l'état des pompes, on est allé voir les réseaux, où est-ce qu'ils passaient, parce que c'est enfoui, il y avait des canalisations cassées. Enfin, avant de présenter ça, on a fait pas mal d'études pour voir si on pouvait mettre en basse pression aussi, plutôt qu'en pression, mais c'était pas possible, enfin, la topographie s'y prêtait pas. Voilà. Donc okay. Je remercie monsieur l'abbé, hein, c'est ça, parce que vraiment, c'est quelqu'un de très accommodant.
Et je remercie chaleureusement Mathilde Mazuy et Gisèle Ravès, parce que ce sont des dossiers qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui prennent un temps fou, qui sont d'une complexité technique pas possible. Bon, j'y ai passé beaucoup de temps, et moi je suis ravi qu'on avance et qu'on trouve des solutions au bénéfice des CRMois concernés, même s'ils ne sont que quelques dizaines, hein, mais c'est important pour eux. Bien, sur cette proposition de vote des tarifs, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, dossier suivant, Monsieur Colombé.
Donc, alors, je propose à l'Assemblée de solliciter une aide de la DRAC concernant sur le dossier de la collégiale pour subventionner les études préalables relatives aux travaux de restauration générale intérieure de l'édifice. Donc, ces travaux ont pour vocation à être réalisés en plusieurs tranches successives déterminées par la maîtrise d'œuvre en fin de phase de diagnostic. Donc, comme je vous le disais, donc, ce projet d'études préalables est estimé à peu près 217 500 € hors taxes. Donc, nous sollicitons la DRAC à hauteur de 70%, soit 152 250 €, ainsi qu'un mécénat si possible à hauteur de 10%, soit 21 750 €, et le reste à la charge de la ville en autofinancement à 20%, soit 43 500 €. Alors, je demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter une aide financière à la DRAC à hauteur de 70%, comme je vous l'ai dit ci-dessus, et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Merci.
Parfait.
Est-ce que ce serait possible d'avoir la signification des acronymes ? Merci.
On va commencer. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on voit, on rencontre au début d'un marché jusqu'à sa fin. Aujourd'hui, il y a quand même des. Je vais vous les donner, mais il y a quand même des outils. Il y a quand même Internet. Vous tapez code des marchés publics, vous avez toutes les abréviations. Mais je vais quand même vous les donner. Diagnostic, donc CDIA, comme vous avez. L'APS, c'est avant-projet sommaire. APD, c'est avant-projet définitif. Pro, comme projet. ACT comme assistance à la passation des travaux, visa comme visa des études d'exécution de l'entreprise, DET, direction d'exécution des travaux, AOR, assistance aux opérations de réception et pendant la garantie du parfait achèvement, et le dernier, OPC, vous l'avez, ordonnancement, pilotage et coordination.
Veille sur veille, monsieur Houlet. C'est pas évident, hein, les acronymes, bon, il n'en manque pas. Bien, sur cette demande de subvention, pas d'autres interventions. Alors, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Parfait.
Sénat, 10%, vous comptez sur qui, là ? Vous avez une idée ?
Un charmant donateur.
Ah non, mais qui c'est ?
Alors, mais écoutez, pour l'instant, on se laisse le droit de solliciter un mécénat. À l'instant T, on n'a pas d'idée particulière.
Voilà, d'accord. Voilà. Merci.
Vous les connaissez, hein, les mécènes potentiels. On les a déjà vus passer en conseil municipal. On sonne toujours les mêmes. On a obtenu des choses de la part du Crédit Agricole.
Par exemple.
Club, etc., etc. Donc, on va à nouveau les ressolliciter. Il ne faut pas se priver de les solliciter.
Et quand lancez-vous cette étude, alors, monsieur le maire ou Gabriel ?
En ce moment, il y a le cahier des charges qui est, comment dire, entre les mains de la DRAC et les mains de la ville. Parce que, bon, bien évidemment, avant de lancer une étude, il faut que le cahier des charges soit bien évidemment défini et fini. Voilà.
Donc, ça laisse penser que l'étude sera lancée dans quelques mois ?
Dans quelques mois, oui. Je ne donnerai pas de date parce que je n'ai pas de date précise et avec l'incertitude de l'administration, donc je ne peux pas vous dire.
Bien. Le plus tôt sera le mieux, sachant que ça, c'est un peu long, quoi. Parce que cette étude complète, elle aurait pu être faite depuis des années, non ?
Comme tout aurait pu être fait depuis des années, mais je pense que la ville a fait pas mal de choses sur cette collégiale.
C'est un peu normal, hein. Excuse-moi, mais...
Il faudrait qu'elle fasse un peu plus, quand même, hein. Même beaucoup plus.
Tout ce qu'on a fait depuis près de 30 ans, ce sont des millions d'euros engagés.
Toutes les municipalités successives pour la collégiale. Je pense que la ville, encore une fois, toute municipalité confondue, la ville a fait ce qu'elle avait à faire. Après, vous savez aussi que nous avançons au rythme de la DRAC. D'accord ?
Oui.
Et bon, on peut, Monsieur Martin, il peut vous résumer tous les épisodes avec la DRAC. C'est une administration qui étudie ses dossiers à fond, quoi. Je suis gentil.
Non, mais c'est vrai que lorsqu'on voyage un petit peu, très souvent, quand on rentre dans les églises, on est étonné de la qualité de l'intérieur de ces bâtiments. Et comparativement, Saint-Rémy, qui a au départ une superbe collégiale, a grandement besoin d'être, de continuer les travaux et rapidement, parce que.
Oui, Madame Aoud, mais vous savez très bien qu'on commence par ce qu'on appelle le toit et le couvert. Hein,
voilà. Ah ben oui, la toiture, c'était depuis 2015, donc.
Mais oui, on commence par la toiture, on continue par la reprise des travaux qui ont été mal effectués il y a plusieurs dizaines d'années, etc., etc. L'historique de la collégiale, vous la connaissez. Hein. Très franchement, c'est pas vraiment un problème financier pour la commune, parce que là aussi, vu que c'est classé, on est aidé à hauteur de 75%. Mmh. Mais bon, avant de bouger une pierre, vous savez le nombre d'autorisations qu'il faut et vous savez de la part de qui. Donc bon, voilà, hein, on fait avec. Bien, sur cette demande de... On a déjà délibéré, je crois. Donc le dossier suivant, c'est une demande de subvention au conseil régional, le dispositif FRAT. Donc il s'agit d'aménagement et de sécurisation de l'hôtel de ville. Donc ce sont des travaux en bas, là, pour le SAS d'accueil. C'est Madame Borel qui suit ces travaux, exceptionnellement. Donc, si vous voulez des précisions, elle peut vous dire.
Oui, ça touche à la sécurité, Madame Borel, c'est ça ? C'est pour l'accueil, donc.
Oui, tout à fait. C'est dans le cadre du plan Vigipérate. C'est pour instaurer un filtre, en fait, physique, pour que les personnes non autorisées, non munies d'un badge, soient contraintes de passer par l'accueil pour avoir une autorisation pour accéder ensuite à l'étage.
Et oui, mais Madame Aoun, vous savez, les périodes comme vie, donc ça nous est, comment dire, fortement recommandé, on dira ça comme ça, quoi.
Pour ne pas mais dire peut-être que les élus auront un badge.
Alors ça, après, pour l'organisation, hein, vous verrez, Madame Bourras.
Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, on peut espérer ça.
Elle me dit oui de la tête, donc. Bien, sur cette demande de subvention au conseil régional, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Monsieur Bonnet.
Donc il s'agit de la participation au GEC Saint-Martin, délibération habituelle. Je rappelle que le code de l'éducation prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements privés sous contrat doivent être prises en charge par les communes dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Et pour l'année 2017-2018, et sur la base des dépenses réalisées en 2017, le coût moyen de fonctionnement par élève des classes élémentaires publiques est estimé à 774 euros. Le nombre d'enfants résidant sur la commune inscrits à l'école élémentaire Saint-Martin est de 110 élèves. Je vous rappelle que nous ne prenons pas en compte les enfants d'autres communes. En conséquence, je demande au conseil municipal d'autoriser le versement d'une participation de 85 140 euros à l'école Saint-Martin au titre des classes élémentaires.
Parfait, merci. Bon, comme toutes les années, calcul mathématique sur cette proposition de participation. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, on passe maintenant aux subventions annuelles de fonctionnement aux associations locales. Donc, il y a eu une réunion de la commission vie locale qui, je crois, a beaucoup travaillé sur ces demandes de subvention. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, hein. Il y en a 67. Je pense que vous avez la liste sous les yeux. Donc, comme d'habitude, on va demander aux personnes concernées de sortir. Par exemple, monsieur le président du comité des fêtes et ou d'autres. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur ces propositions ? Encore une fois, ça a été longuement travaillé en amont en commission mi-locale. Et évidemment, on vous propose... exactement ce qui a été décidé en commission mi-locale. Sauf s'il y a des questions. Pas de questions là-dessus. On laisse Michel Giovannetti sortir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont concernés, non ? Non ? Ah, Florine Bouquet n'est pas là. Ouais. Les personnes concernées ne sont pas là. Bon, mais alors, Monsieur Giovannetti va sortir tout seul.
Les 48 000 euros de Cinépalace, monsieur le maire, c'est la location de leur cinéma, non ?
Non, c'est la subvention de fonctionnement.
C'est le fonctionnement annuel classique. Hein, c'est ça.
Et d'accord. Je tiens à dire qu'ils ont été.
Et après, il y aura.
Je tiens à dire qu'ils ont été d'une grande correction avec la collectivité, parce qu'ils avaient un petit peu plus l'année dernière, et ils nous ont demandé uniquement ce dont ils avaient besoin.
D'accord.
C'est quand même assez exceptionnel de la part d'une association qui, en général, refait systématiquement les mêmes demandes de subvention. Ah ben, a fortiori, alors. A fortiori. Bien. On peut passer aux voix pour ces 67 demandes de subvention. Alors, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Merci. Adopté à l'unanimité, monsieur... Le délégué aux festivités. Ah. Alors, la délibération d'après, il s'agit cette fois des subventions exceptionnelles. Donc, je vous rappelle que la première vague, ce sont les subventions de fonctionnement classique annuel. C'est la ligne 65-74 du budget, chapitre 65, subventions et participation. Là, ce sont les subventions exceptionnelles. Donc, on n'est plus sur le 65, on est sur le 67. Chapitre 67, dépenses exceptionnelles, et pour ceux que ça intéresse, la ligne 67-45. Bref, là aussi, c'est passé en commission bilocale. Donc, il y en a 11. Bon, cette fois, je peux vous les donner. ça fait moins. Tennis Club CRMI, 600 euros. 15 CRMI, 1000 euros. Sport, loisirs et culture, 2000 euros. Vélo Club CRMI, 300 euros. La Boule de la Galine, 2000 euros. Société communale de chasse, 800 euros. Association des amis de l'orgue de Saint-Rémy, 7000 euros. C'est une subvention d'investissement, en fait. C'est pour des travaux sur les orgues. C'est pour ça qu'il y a ce montant. Et c'est pour ça que c'est exceptionnel, parce que ça reviendra pas toutes les années, fort heureusement. Comité des fêtes, 1500 euros. La courte échelle, 7500 euros. Vélo Club des Alpilles, 1500 euros. Et Ligue de protection des oiseaux, 500 euros. Voilà, ça fait un total de 23 000. Non, je dis une bêtise, ça fait un total. Oui, ça fait un total de 23 100 euros. Voilà. Ça a été aussi discuté en commission bilocale.
Pardon, monsieur le maire, oui. La société. Où s'occupe les bus ? La société communale chasse, il y a longtemps qu'elle n'existe plus. Hein, c'est la société de chasse à la Garrigue.
D'accord. Eh bien, on modifiera en conséquence l'intitulé. Vieux copier-coller.
Comme je ne participe pas à la commission vie locale, je le regrette. Je voulais savoir, le comité des fêtes, les 1500 euros, c'est quoi ?
C'est dans le cadre du 30e anniversaire du Tabou d'Or. On va faire quelque chose d'exceptionnel, c'est pour ça qu'on a demandé l'exceptionnel.
C'est pour ça que c'est une subvention exceptionnelle, parce que ça ne sera pas non plus toutes les années.
Merci.
Bien, est-ce qu'on peut passer aux voix ? Donc on va demander au président du comité des fêtes de sortir. Eh oui.
Michel, monsieur le maire, la courte échelle, ça concerne les 7500 euros d'exceptionnel, c'est pour...
Alors, le déménagement. La courte échelle de mémoire, elle a changé de local.
C'est le déménagement.
Voilà. Voilà. Et bon, c'était le soutien, là aussi, exceptionnel dans le cadre du déménagement. Ouais. Bien. Sur ces subventions exceptionnelles, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Monsieur Giovannetti ? Alors, délibération suivante, il s'agit du budget annexe du lotissement de la Massane. Donc, on vous propose un compte de gestion de dissolution, donc c'est l'arrêt définitif des comptes. Ce budget d'aujourd'hui est obsolète, ce lotissement est terminé depuis des lustres. Donc, il reste sur ce budget annexe 53 417,57 € qui vont évidemment revenir à la collectivité, donc qui vont revenir dans le budget primitif de la commune. Donc il y aura prochainement une décision modificative qui nous permettra d'enregistrer cette recette. Donc ça sera au compte 002, recette de fonctionnement, bon, je passe les détails. Voilà. Ça faisait quelque temps qu'on vous annonçait la clôture de ce budget. Eh bien, c'est fait. Alors, on vous propose d'adopter le compte de gestion de dissolution, si vous en êtes d'accord. Qui est contre ? Pas de contre. Abstention ? 8 abstentions. Adopté. Délibération suivante. Alors, c'est une délibération un petit peu particulière. Nous avons délibéré sur le débat d'orientation budgétaire le 13 février. D'accord ? Le 13 février, comme la loi nous l'impose, demain, 2 mois avant le vote du budget primitif. Bien. Nous avons reçu le 1er mars, la chronologie est importante, vous comprenez pourquoi, donc débat d'orientation budgétaire le 13 février au conseil municipal, et nous avons reçu une circulaire de la part de l'État le 1er mars, nous indiquant un certain nombre de nouveautés. Le problème, c'est que le débat avait déjà eu lieu. Donc la préfecture nous a écrit, gentiment, pour nous dire, c'est ce que vous avez dans la délibération, suite à la circulaire préfectorale en date du 1er mars 2018, rappelant une nouvelle disposition de la loi 1.1 relative à la programmation des finances publiques 2018-2022, la préfecture a demandé à la commune d'adopter une délibération complémentaire au débat d'orientation budgétaire d'orientation adopté par délibération le 13 février 2018. Donc il nous demande évidemment d'approuver les choses qui étaient dans la circulaire, mais qui ne figuraient pas dans la délibération du 13 février, et pour cause, on n'avait pas reçu encore la circulaire. Donc, les compléments d'information, c'est ce que vous avez dans votre dossier. Donc, on nous demande un engagement pluriannuel Alors, on s'est basé sur l'évolution des dépenses, sur les préconisations de l'État, à savoir l'augmentation de 1,2% maximum des dépenses de fonctionnement de la collectivité. Donc, ça vous donne les chiffres que vous avez sous les yeux. Ça, c'est la première chose. Et ils nous ont demandé aussi une évolution prospective. Non, pas une évolution prospective. Une évolution de l'encours de la dette. Mais ça, c'est sur le passé, sur le réalisé. Donc, bon, on vous donne les chiffres, quoi. Voilà. Et donc, vous voyez que on avait donc 13 809 000 euros de stock de dette en 2014 et nous sommes à 12 974 000. Donc, il y a un peu plus de 800 000 euros de stock de dette en moins qu'au début du mandat. Et ça ira à s'améliorer, enfin, en s'accroissant d'ici la fin du mandat. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, on nous demande ces deux précisions qu'on apporte et on vous demande de délibérer là-dessus pour répondre positivement, évidemment, à l'interpellation de monsieur le préfet de région via un courrier qu'il nous a adressé, je ne sais plus quand, on n'a pas mis dans la délibération, il y a quelque temps. Pardon ? Au mois de ? Au mois de mai ? Oui, d'accord. Ok, voilà.
Vous voyez, monsieur le maire, vous m'aviez reproché d'être malade pour le DOB le 13 février. Mais finalement, c'est pas très grave puisque ce soir, je n'ai pas vraiment tout perdu, hein, puisque ce soir, on reparle du DOB. Mais bon.
Vous êtes un peu rancunière, madame Aoudin.
Non, il y a des choses que je n'aime pas quand je ne suis pas en cause. Après, tout le reste est possible. Mais bon, quand on est malade, ou alors il faut mettre dans le règlement qu'il faut fournir un certificat médical. Bon. Ou alors, il ne faut rien mettre sur les réseaux sociaux.
Bon, si je devais vous parler de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et qui est faux, et qui est mensonger, qui est diffamatoire, etc., et que je n'aime pas, ça prendrait beaucoup de temps ce soir. Mais bon, allez, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire avancer les dossiers. Bon, sur le débat d'orientation budgétaire 2018, donc on vous propose d'apporter ces deux précisions, je vous propose de les mettre aux voix. Alors, qui est contre ? 8 contre ? Abstention ? Adopté. Alors, on poursuit avec un dossier qui concerne l'intercommunalité. Il vous est proposé une convention de mise à disposition des services entre la communauté de communes Vallée de Beaulapire et la commune de Saint-Rémy de Provence. C'est donc, comme il est indiqué, une délibération cadre. Ça permettra d'être plus réactif, plus souple, plus rapide, de gagner du temps, de ne pas avoir à redélibérer chaque fois. Donc c'est une convention cadre qui permet soit à la communauté de communes de mettre à disposition des agents à la commune, soit à la commune de mettre à disposition des agents à la communauté de communes, idem pour le matériel, pour tout un tas d'échanges entre les deux structures qui sont évidemment très proches, puisque Saint-Rémy représente à peu près plus d'un tiers des habitants de la CCVBA. Voilà. C'est donc une convention cadre classique, comme il y en a dans un certain nombre de collectivités. Sur cette proposition de convention cadre, c'est bon ? Qui est contre ? Pas de contre. Abstention ? Unanimité. Ah, pardon, je suis allé trop vite. 8 abstentions. Alors, attendez, je reprends. Qui est contre ? Pas de contre ? OK. Abstention ? Alors, abstention, 6 abstentions, c'est ça ? D'accord. Adopté, donc. Alors, délibération suivante. Il vous est proposé que la commune adhère au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités territoriales innovantes des Alpes et de la Méditerranée. Bon, c'est un acronyme un peu long, ça s'appelle le SICTIAM. C'est un syndicat mixte, donc, qui regroupe tout un tas de collectivités. Alors, syndicat mixte n'est pas intercommunal parce que ça regroupe des collectivités qui ne sont pas forcément de même nature. Il y a des intercommunalités, il y a des syndicats mixtes, il y a des SDIS, il y a des communes, enfin, il y a tout un tas de structures publiques. Normalement, vous devez avoir la liste quelque part dans les statuts. Alors, on vous propose de faire adhérer la commune de Saint-Rémy. Premièrement, parce que la communauté de communes prend en charge les adhésions, d'accord ? puisqu'elle le fait pour l'ensemble des communes de la communauté de communes. Toutes vont adhérer, donc ça c'est une bonne chose, c'est un premier point. Donc les adhésions sont prises en charge et mutualisées par la communauté de communes. Par contre, les prestations qui concernent la commune de Saint-Rémy, évidemment, seront prises en charge par la commune de Saint-Rémy, comme les prestations pour la commune de Masblanc seront prises en charge, évidemment, par la commune de Masblanc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des prestations qui concernent tous les réseaux informatiques des collectivités. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la RGPD, qui va s'appliquer très prochainement, là, dans quelques jours, donc le 25 mai. La RGPD, ça concerne les données personnelles des usagers qui doivent être préservées par les collectivités, mais aussi par les entreprises. Bon, les entreprises, je ne vais pas en parler, ça ne nous concerne pas ce soir. On va rester sur les collectivités. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement lourd à mettre en place. Et si on ne le met pas en place... ça peut être du pénal pour les responsables des collectivités. Donc, bon, hein, j'ai pas forcément envie, moi, de me retrouver. Donc, évidemment, on va respecter la loi. Voilà. Madame Borel ainsi que les services de la collectivité ont suivi ce dossier de très près. Ce matin, il y avait une formation à Saint-Rémy du CNFPT, une journée d'actualité, une formation toute la matinée sur, justement, le RGPD. De nombreux cadres de la collectivité étaient présents. Je crois Monsieur Vallée, Monsieur Martin, Madame Borel. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de lourd. Et on est convaincu qu'en passant par ce syndicat, eh bien, ça sera plus rapide et moins coûteux pour la collectivité. Maintenant, sur le RGPD en lui-même, je vous propose de passer la parole à Madame Borel, qui maîtrise parfaitement ce dossier.
RGPD, comme l'a dit le maire, c'est le Règlement général de protection des données, qui est un règlement européen et qui est applicable immédiatement en droit interne, qui impose à tous les responsables de traitement, c'est-à-dire tous les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, de, d'une part, recenser l'intégralité des données dont ils disposent et de traiter ces données en conformité avec le règlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des données qui permettent d'identifier les personnes et qui nécessitent d'abord en amont l'information des personnes et puis leur consentement. Voilà, donc on a un gros travail de diagnostic à établir dans toutes les collectivités et le SICTIAM va nous aider à porter ce projet, à établir les bases de données et ensuite à vérifier que ces bases de données sont bien en conformité et que notre procédure est bien en conformité avec nos obligations réglementaires.
Merci. Alors, ça n'a pas l'air et ça peut paraître invisible pour beaucoup, mais... c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. C'est la loi et on se doit de la respecter. En plus, la protection des données, ça me paraît quand même être quelque chose de tout à fait honorable et respectable. La seule chose, c'est que, comme beaucoup de ces dispositifs, c'est imposé aux collectivités territoriales, mais il n'y a évidemment aucune compensation financière. Pas plus que sur le prélèvement à la source, où, qui génère un certain nombre de coûts pour les employeurs et donc pour les collectivités. Mais bon, on n'a pas de compensation financière de qui que ce soit, ni de l'Europe qui nous impose ça, ni de l'État non plus. Alors bon, évidemment, ce ne sont pas des sommes colossales, mais bon, les petits ruisseaux font les grandes rivières des dépenses de fonctionnement des collectivités. Voilà. Alors... il faut d'abord adhérer au SICTIAM, si vous en êtes d'accord. Il faut aussi nommer deux représentants. Dans un premier temps, je vous propose de mettre Yves Faverjon et moi, mais on vous reproposera une délibération avec peut-être d'autres élus, parce que bon, le SICTIAM, c'est un syndicat qui regroupe tout un tas de collectivités de la région PACA, de régions limitrophes aussi, Gare, etc., de la Drôme, de bon. Donc le siège est à Sophia Antipolis, si ma mémoire est bonne. Donc le jour où il y aura une assemblée générale, bon, c'est peut-être pas évident, ça mobilisera la journée d'un élu. Donc on va voir qui souhaite suivre ce dossier. Mais bon, dans un premier temps, comme il faut quand même aller relativement vite, on vous propose de désigner Yves Faverjon et moi, mais encore une fois, c'est vraiment temporaire. Voilà.
S'il vous plaît, monsieur le maire, sur la première page, je vois en plus de la gratuité de l'adhésion pour la commune. Et derrière, je lis la cotisation statuaire. Alors, je comprends pas bien.
Alors,
s'il vous plaît.
La gratuité, en fait, c'est pas une vraie gratuité, c'est parce que la communauté de communes prend en charge. Mais il y a bien une cotisation. Mais en ayant négocié. Alors, en ayant négocié pour 10 communes d'un coup, on a évidemment obtenu un tarif plus intéressant que si chaque commune était allée adhérer dans son coin. Et de mémoire, je crois que les 8 500 €, c'est pour... Madame Borel, je vous laisse répondre. C'est ça, c'est pour les 10 communes. D'accord. Voilà. Oui, oui, ça a été... Bon, en fait, c'est Karine Briand qui a été la première à s'intéresser au sujet. Enfin, la première... c'est elle qui s'est intéressée au sujet pour la communauté de communes et après discussion avec les directeurs généraux des services des dix communes, puisque vous avez une réunion mensuelle, donc les 10 DG des communes et la DG de la communauté de communes, bon, tout le monde a convenu qu'il était intéressant de mutualiser, quoi. Voilà. Donc là, c'est un exemple intéressant de mutualisation et donc d'économie de coûts, d'économie d'échelle, quoi. C'est bon, il n'y a plus d'intervention. Est-ce qu'on peut délibérer pour l'adhésion au CITIAM? Alors, qui est contre? Abstention? Unanimité. Et encore une fois, on y reviendra pour les deux représentants. Alors, les affaires de personnel. Monsieur Faverjon.
Oui, la délibération qui vous est proposée concerne le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique et de son cousin germain, le comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Donc le comité technique, vous le savez, c'est une instance qui réunit des représentants du maire et des représentants du personnel et dont la vocation est d'évoquer tous les sujets relatifs à l'organisation du travail. L'ADN du comité technique, c'est d'arriver à sur chaque sujet à des consensus avec les représentants du personnel. Il se réunit 3-4 fois par an et on essaye autant que faire se peut d'atteindre l'objectif. Jusqu'à présent, les représentants du personnel qui siégeaient au comité technique étaient élus en début de mandat et pour toute la durée du mandat. Ça a changé relativement récemment, c'est pour ça qu'on vous présente cette délibération, puisqu'il y aura des élections professionnelles à la fin de cette année 2018 et qu'en conséquence, il nous appartient de décider du nombre de représentants qui siégeront au sein du comité. De la même manière que lorsqu'on avait délibéré début 2014, on avait conservé le nombre de représentants historiques, c'est-à-dire 4 représentants pour le personnel, 4 représentants pour représenter le maire. Ce que je vous propose ce soir, c'est de continuer sur la lancée avec 4 représentants pour chacun et donc d'obtenir une représentation paritaire. Voilà.
Bien. Bon, on applique la loi, hein. Sur cette fixation du nombre, on peut voter. Qui est contre? Abstention? Unanimité. Il n'y a qu'un dossier de personnel? Il y en a un deuxième, pardon. Oui.
Allez. Un deuxième dossier, donc le titre de la délibération, création d'un emploi de directeur de la communication, culture et patrimoine en CDI. Donc c'est une création, je serais tenté de dire, toute théorique, puisque le directeur de la communication, culture et patrimoine, il est déjà en poste. Il est en poste depuis 6 ans dans la collectivité, 2 contrats de 3 ans, dont le deuxième arrive à échéance en juillet 2018. Et donc, comme le prévoit la loi, dans la mesure où on souhaite conserver conserver la tâche de monsieur Martin, puisque c'est de lui dont il s'agit, il nous appartient aujourd'hui de créer un emploi en CDI. Il n'est pas possible, et nous ne le souhaitons pas d'ailleurs, il n'est pas possible de renouveler une deuxième fois le contrat de 3 ans. Voilà. Donc c'est ce que vous avez proposé ce soir.
Bien, sur cette création d'emploi qui n'en est pas une, comme on l'a dit le Faverjon, en fait c'est la pérennisation du contrat de M. Martin. Qui est contre? Pas de contre. Abstention? Unanimité. M. Martin, vous avez fait l'unanimité. Je vous félicite. Très bien. Alors, il y a un dossier urbanisme. Bon, M. Guénaud, vous le savez, était hospitalisé. Je me permets de le présenter à sa place. Il s'agit de l'avenant numéro 3 à la convention de prospection et de maîtrise foncière en vue de la réalisation de programmes d'habitat mixte EPF et PACA, ville de Saint-Rémy. Alors, c'est un avenant qui porte sur la période 2018-2021, donc 3 années supplémentaires. Et... ça porte sur essentiellement sur deux opérations, l'opération des cèdres et le site de la Roche. Voilà. Le site de la Roche, c'est écrit clairement dans la convention, hein, dont on s'occupera une fois celle des cèdres finalisée. Voilà. Donc dans l'immédiat, c'est les cèdres, mais ça porte aussi sur la Roche.
Alors, oui. J'aurais pu voter pour s'il y avait eu deux délibérations, mais comme d'habitude, vous n'en faites qu'une, c'est sûrement pour économiser du papier.
C'est une convention, monsieur Milan. C'est une
convention. Oui, mais on peut faire deux conventions. Ça serait pareil. Donc, du coup, le Roche, je vote pour, et Cède, je voterai contre. Et donc, vous m'obligez à voter contre.
Vous n'êtes pas pour la simplification administrative. Vous voulez faire deux conventions à la place d'une.
Oh, ben, attendez-vous non plus. Hein. Enfin, nous sommes victimes tous les deux.
Bien, si on ne vote pas cette subvention, vous avez une ligne là, hein, frais d'études, cette convention, pardon, j'ai dit subvention, c'est une convention. Vous avez une ligne, les frais d'études et l'acquisition de la convention ont été menés à bien pour un montant global d'environ 4,5 millions d'euros. Si on ne vote pas ça, demain, il faut sortir 4,5 millions d'euros. Je vous rappelle que le coût résiduel de la piscine, c'est 1 million d'euros. Hein. Là, il y en a 4,5. Hein. Donc, bon... Je pense qu'il est d'intérêt communal de la voter. Mais bon, vous faites comme vous voulez, évidemment.
C'est presque le montant de la piscine. Vous feriez 500 000 euros d'économie.
Non, monsieur Milan. La piscine, le coût résiduel de la piscine, ça va être 1 250 000 euros au maximum pour la ville. Et si tout se passe bien avec la région, 1 million d'euros. Donc, bon, on n'est pas sur les mêmes sommes. Hein. Là, on a zéro de subvention. Bien, sur l'approbation de cet avenant, qui est contre ? Alors, contre Madame Ingouglia, Monsieur Milan, Monsieur Guillot. Abstention. Monsieur Pons, Madame Pascal, Madame Aoun, Madame Marceau, et j'imagine il y a la procuration de Monsieur Guay. D'accord, voilà. Donc c'est trois contre, oui, trois contre, cinq abstentions. Quatre contre. Ah, excusez-moi. Monsieur Guay a donné sa progression à Monsieur Guillot. Ça fait 4 contre et 4 abstentions. Très bien. Alors, je vous propose de passer maintenant aux questions diverses. On en a terminé avec l'ordre du jour. Alors, si on procède par ordre chronologique d'arrivée des questions, les premières questions arrivées, ce sont celles de Monsieur Milan, qui était, je vous le rappelle, arrivé en retard lors du dernier conseil municipal, donc dont on peut parler ce soir, si oui. Vous le souhaitez.
Il conviendrait de lire la question de M. Milan. Il conviendrait de lire la question de M. Milan.
Oui, parce que je ne les ai pas lues, moi. Par contre, sur celle concernant les compteurs Linkili, je pense que la question d'Angeline est mieux posée que la mienne.
On fera une réponse globale, tout à fait. Donc, M. Milan avait posé une question sur les compteurs Linky. Mme Ingouglia, il y a une question voisine, on dira. Mme Ingouglia la posera et j'essaierai de répondre globalement aux deux. Est-ce qu'il y avait une autre question de la part de M. Milan ? Oui.
Si.
Donc, l'intitulé de la question, au moins que vous vouliez la lire, non ? Bon. Je vous la donne, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Non, mais alors, c'est au sujet de la piscine municipale, des incidents sanitaires entraînant des intoxications chez les enfants, se sont-ils produits en 2017 ? Si oui, que prévoyez-vous comme action pour 2018 ? De même, pouvez-vous nous informer sur l'avancement du dossier de la future piscine ? Sur la dernière partie de la question, je pense qu'on a largement répondu. Sur la première partie, alors, peu d'incidents ont été relevés l'année dernière. Seuls deux accidents sont survenus, sans particulière gravité et sans séquelles. Les enfants, par mesure de précaution, ont été transportés à l'hôpital, mais ils sont ressortis quasiment immédiatement. Toutefois, pour prévenir tout risque, de nouvelles installations ont été commandées et seront posées lors du remontage de la structure. Il s'agit de pompes doseuses permettant de réguler de manière automatique le dosage du chlore et de stabiliser le pH. C'est les petits soucis qu'on a eus l'année dernière. Par ailleurs, une entreprise assurera la mise en route des installations et un contrôle régulier avec les agents en charge de la vérification du dosage du chlore. Enfin, la tuyauterie souple sera remplacée par une tuyauterie rigide fixée à l'entrée des bassins. L'état d'avancement du projet relatif à la construction de la future piscine a été présenté. On en a parlé. Bon, j'y reviens pas. Voilà, donc, Monsieur Milan. Ensuite, donc, par ordre chronologique, je crois que c'est... bon, allez-y, peu importe. Là. Oui, je vous en prie.
Oui, quelle est la position de la mairie de Saint-Rémy face au compteur Linky et, de l'attitude, et face à l'attitude de Enedis à ce sujet, compte tenu du parfait état de marche et du suivi satisfaisant par EDF de la consommation d'énergie des usagers?
Alors, effectivement, on a reçu un certain nombre de courriers en mairie et ça crée un certain émoi au sein de la population, cette affaire de compteur Linky. Et je vous propose que lors du prochain conseil municipal, on adopte une motion, une délibération. Bon, c'est à débattre dans un premier temps au sein du groupe majoritaire. Et donc, on aura évidemment l'occasion de poser ce dossier sur la table. Voilà. Donc, ça sera abordé lors du prochain conseil municipal. On aura une motion, une délibération qui ira... Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'elle sera, puisque bon, pas encore vraiment débattu, mais bon, qui ira dans le sens de fortes réserves de la part du conseil municipal, quoi. Voilà. Sur les compteurs Linky. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il faut qu'on aborde le sujet. Et on fera en sorte de vous faire passer... le projet, si on peut, avant les 16 jours réglementaires.
Parce que les informations récentes nous donnent à penser que d'autres communes alentour, notamment, je pense, Mayanne, ont adopté de telles délibérations. Donc, ce serait peut-être simple de prendre contact avec eux.
Bon, quelles sont les raisons ? On va soit réunir la majorité municipale, soit interroger par mail sur une motion, une délibération. Et dès qu'on a arrêté une proposition, on vous la fera passer. Et si c'est avant les 16 jours, ça laisse le temps. Voilà. Voilà pour Linky. Mais effectivement, alors, je n'ai pas compté, hein, mais je ne sais pas, on doit être une bonne vingtaine de courriers quoi, de la part de citoyens ici et moi. Et oui, j'oubliais, c'est important. J'ai reçu lors de ma dernière permanence, jeudi dernier, donc un groupe de personnes, je crois qu'il y avait 5 ou 6 serrés moi, qui sont en train de créer un comité anti-Linky et qui nous ont demandé une salle municipale pour se réunir. Bon, on ne voit pas de raison de leur refuser une salle municipale. Hein, donc ils ont fait la demande, je crois, auprès de M. Martin. Ils vont se réunir, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, vous allez nous le dire.
Bon. Sur le paquet, si c'est journalisé.
Tout le monde sera informé. Voilà.
Oui, parce que le problème, c'est non seulement la nuisance du compteur, le problème de justement des données personnelles qui peuvent être prises, mais il y a aussi un problème de au niveau des gens qui viennent installer. Vraiment, enfin, des manières assez acrobatiques de se comporter, quoi, pour le moins, puisqu'il s'agit d'installateurs.
J'en ai fait l'expérience il n'y a pas plus tard que 15 jours. L'installateur de Enedis était particulièrement virulent, pour ne pas dire plus. On peut considérer que j'étais pas le premier à émettre des réserves, mais c'était extrêmement surprenant, surtout si on se met à la place de gens qui sont absolument pas au courant et qu'on arrive à convaincre comme ça en leur disant c'est ça et c'est rien du tout. Voilà le discours que j'ai eu.
Oui, vous n'êtes pas le premier à nous le dire, Monsieur Milan, effectivement. Non, mais ça soulève un certain nombre de problèmes. Écoutez, je vous propose, nous en débattrons lors du prochain conseil municipal. Je vous propose de passer et avec une question de Madame Ingoglia, donc aux autres questions. Madame Aoun, oui.
La première question concerne la gestion des déchets matériaux de construction. L'entreprise Gambino est aujourd'hui fermée. Chacun peut constater la multiplication de dépôts sauvages dans des secteurs souvent sensibles sur le plan environnemental. Un conteneur est effectivement en place à la déchetterie de Saint-Rémy, mais il est insuffisant pour recueillir les gravats des particuliers et des professionnels. Quelle solution envisagez-vous à court terme pour résoudre ce problème qui peut vite devenir préoccupant ?
Alors, juste une précision, le conteneur qui est à la déchetterie c'est pour les particuliers.
Ah d'accord, que pour les particuliers.
Ils n'ont pas à aller là-bas, d'accord. Que ce soit bien clair. Hein. Mmh. Là, le règlement est parfaitement clair à ce niveau.
D'accord.
Alors, première chose, le zonage proposé par le PLU de la commune intègre la déchetterie d'inerte, ça a été proposé à la réunion publique, oui. Un certain nombre d'entre vous étaient là, donc intègre la déchetterie d'inerte de la société Gambino et Fils, donc zonage de la DPA, Directive Paysagère Alpine, NDPN remarquable, bon, je passe sur les acronymes, donc ce zonage retenu est compatible avec les activités de stockage d'inerte, donc... Nous, collectivités, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de maintenir sur le plan réglementaire donc la carrière Gambino. Deux courriers en plus ont été adressés à l'Adréal les 5 et 23 avril 2018 pour souligner le rôle essentiel de ce site pour le stockage dans de bonnes conditions des déchets inertes de la commune et des alentours. Nous avons indiqué à ce service que sans site de stockage identifié pour ce type de déchets, nous aurions à faire face à une prolifération de dépôts sauvages d'inertes et de gravats dans le massif des Alpilles.
C'est ça.
Vous l'avez constaté. Sans moyen d'y remédier, malheureusement. Les conséquences pour l'environnement, les paysages et indirectement pour l'activité touristique seraient extrêmement préjudiciables pour notre commune et les communes des Alpilles. Donc, je pense pouvoir dire que sur le plan d'appui, comment on pourrait dire, technico-administratif à la carrière Gambino, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. On les intègre dans le PLU. On a écrit deux fois à l'Adréal. J'ai moi-même reçu l'Adréal. Bon, enfin, je passe là-dessus. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour aider sur le plan technique, administratif, environnemental, etc., la carrière Gambino. Après, Madame Aoun, vous le savez, il y a des choses qui sont pas à mon pouvoir. C'est de m'ingérer dans les problèmes de famille. Ça, c'est difficile. Hein, on est bien d'accord. Donc là, moi, je sais plus faire. Hein. Moi, je sais plus faire. Donc j'ai reçu les deux exploitants actuels de la carrière, donc les deux frères. Moi, je leur ai dit ce que je viens de vous dire là, hein, que nous, collectivité, et ça va dans le sens de votre question, de votre remarque, on est tout à fait favorable à ce que l'activité de la carrière soit pérennisée. Mais après, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont, c'est une société familiale. S'il y a une majorité d'actionnaires qui préfèrent arrêter l'activité, moi, je j'ai aucun moyen de les...
Non, mais d'accord, ça c'est sûr, les affaires familiales, je comprends bien. Bien sûr. Non, mais est-ce que on ne pourrait pas anticiper une solution au cas où la famille n'arriverait pas à trouver une entente?
Ça a été évoqué avec les deux frères que j'ai reçus. Si vraiment n'y a pas de solution pour pérenniser l'activité actuelle, on essaiera d'imaginer d'autres solutions. Ce que je ne souhaite pas. Hein. Moi, je préférerais que ça continue comme ça fonctionne aujourd'hui. Mais bon, après, encore une fois, il y a des problèmes qu'on ne sait pas régler. Quoi. Alors bon, on fait aussi passer le message que une carrière, c'est pas une pizzeria ou une...
Ah non, mais c'est très compliqué, bien sûr.
Bah, une carrière, vous arrêtez derrière, il y a 30 ans, hein, de gestion de l'outil, la réhabilitation, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un élément fondamental qui doit être pris en compte par l'ensemble des actionnaires. Parce que c'est pas je m'arrête, je vends et tout va bien. Non, c'est je m'arrête derrière, j'ai 30 ans d'obligation. Donc il me semble que c'est un élément qui peut-être pourrait être de nature à
les faire réfléchir.
Faire évoluer les décisions, quoi. Voilà. Mais après, encore une fois, je veux pas aller plus loin, moi, dans des problématiques internes, familiales, quoi.
Mais en ce moment-là, elle est fermée, par contre.
En ce moment, malheureusement.
Elle est fermée, donc, oui, c'est pour ça que il y a beaucoup de gravats et autres un peu partout.
Mais ça, vous savez, on l'a toujours dit.
On
ça.
Revient toujours on sur l'incivilité.
On l'a dit très, parce que l'Adréal, il était question à un moment donné que l'Adréal soit sévère avec la carrière. On leur a toujours dit, attention, le remède va être pire que le mal. Vous fermez la carrière, il va y en avoir de partout. Et ben voilà, c'est pas l'Adréal qui l'a fait fermer, mais bon, elle est fermée et on commence à voir éclore. Bon, voilà.
Mais il y avait des personnes qui éventuellement se proposaient pour faire autre chose. J'en avais parlé à Monsieur Favergeon et à Gisèle aussi. Donc je pense qu'il faut pas fermer de pistes, quoi. On ne sait pas.
On est d'accord, effectivement. C'est un débat.
Bon.
Nous, il faut savoir que c'est pas une compétence intercommunale pour le coup, puisque la gestion des déchets, soit la collecte ou le traitement, c'est une compétence intercommunale, puisque dans le cas de déchets professionnels,
Donc normalement, il doit y avoir une offre privée, ce qui était le cas à la carrière gambine qui doit se mettre en place. Moi, suite à notre conversation, j'avais sollicité donc le service déchets de la communauté de communes, et ça me fait penser que j'ai pas eu de retour, donc je vais le relancer. Déjà, pour faire un peu une prospection de ce qu'il y a par la carrière Gambino, ce qu'il y a 15 km à la ronde, moi j'ai pas en tête, je suis pas maçon, peut-être que Yves Nègre il y a plus en tête. Voilà, ce qu'il y a comme exutoire pour les professionnels, puisque normalement c'est à eux de gérer leur gravats, sachant que sur les gros chantiers, les gros, grosses entreprises, ils gèrent, hein, ils ont des contrats avec des repreneurs, c'est une obligation de façon dans tous les chantiers. Voilà, déjà un premier recensement, et après, même si c'est pas de la compétence de la commune, effectivement, si vraiment il n'y a pas d'issue, enfin qu'on n'arrive pas à, que vraiment c'est confirmé, voir comment on peut aider peut-être un privé, mais bon, ça reste sur du conseil, parce qu'on n'a pas à s'ingérer dans les affaires privées, mais c'est tout l'intérêt de tout le monde qu'il y ait effectivement une solution qui soit trouvée, aussi bien pour les artisans que pour la commune qui voilà, qui ne veut pas se retrouver avec des dépôts. Voilà, on en est là, donc en espérant que quand même il y aura une issue
Favorable. Oui, ouais, c'est sûr. Merci.
La problématique de la carrière. Vous avez parlé effectivement d'un professionnel qui vous avait saisi du dossier. Avec Yves Nègre, on en a rencontré deux autres qui sont aussi dans le domaine des chantiers et des bâtiments travaux publics et qui ont des problématiques de gravats, qui eux aussi nous disent comment on fait. Il y a quand même des solutions qui existent à quelques kilomètres autour de Saint-Rémy, mais c'est pas des solutions saint-rémoises, hein, donc ça arrange pas forcément les professionnels qui préfèrent aller directement sur leur commune et le plus près possible. Nous, ce qu'on leur a répondu à ceux que nous avons rencontrés, c'est on va pas se substituer à une activité qui relève du privé. Et pour compléter ce que disait Gisèle, il est évident que si on peut accompagner, trouver une solution foncière, on le fera. Mais à l'origine, il faut qu'il y ait une entreprise privée qui se saisisse du problème.
Oui, c'est ce que vous m'aviez dit, oui.
Voilà, et que ce soit ceux qu'on a rencontrés avec Yves, que ce soit ceux que vous avez rencontrés vous, et que si demain il y en a un autre, ce sera la même réponse.
Bien sûr.
D'autant que c'est extrêmement encadré et qu'effectivement, il vaut mieux que ce soit une entreprise privée qui gère ce genre de choses.
D'accord, merci. La deuxième question concerne la sécurité et la circulation. La circulation à proximité des arènes municipales devient de plus en plus difficile et dangereuse pour les automobilistes et les piétons. Les ralentisseurs de l'avenue Van Gogh ont disparu avec les travaux de chaussée, on suppose. Les véhicules venant de Glanhomme roulent à vive allure et augmentent les risques au carrefour avec l'avenue Baroncelli. De nombreuses voitures stationnent le long de cette dernière, mais aussi depuis quelque temps le long de l'avenue Balthus, et ce, non seulement les jours de course aux arènes, mais aussi les jours de marché. Quant au stop de l'avenue Baroncelli avec l'avenue Marie-Gasquet, il est mal placé puisqu'il oblige les automobilistes à avancer la moitié de leur véhicule au-delà de la ligne blanche pour s'assurer du passage sans danger. Donc, enfin, il faut signaler le croisement des avenues de Servières et Balthus, extrêmement dangereux et a vu déjà plusieurs accidents. Donc, en conclusion, il nous semble très urgent de mener une étude sérieuse pour que des solutions soient trouvées avant le lancement de la saison estivale surtout. Enfin, surtout, entre autres.
Bien, suite à votre à la réception de votre question diverse, Madame Aoun, on a interrogé donc Madame Bourrel, en l'occurrence, a interrogé Damien Méda et le lieutenant Masson, chef de la police municipale et commandant de la brigade de gendarmerie. On n'a pas eu de retour particulier sur la dangerosité ou sur des problèmes relevés sur cette artère. Je parle de Folco de Varosilli, hein, je ne parle pas de Van Gogh. Van Gogh, c'est autre chose. Ils nous ont pas rapporté qu'il y a eu de gros accidents, de problèmes particuliers ou de soucis majeurs dans ce coin. Alors effectivement, hormis les jours où il y a des manifestations dans les arènes, où là il y a des voitures de partout, et les mercredis où il y a des voitures de partout, mais là c'est de partout dans les arènes. Donc hormis ces deux temps forts, on ira. Le reste du temps, bon, il semble pas qu'il y ait de problèmes particuliers. Concernant l'avenue Van Gogh, effectivement, les Saint-Berlinois ont été retirés parce qu'ils étaient en mauvais état et sont prévus des travaux les 29 et 30 mai, donc dans quelques jours. Donc vont être installés des ralentisseurs en dur. du type de ce qu'il y a à l'alpilium. Donc ça va être une plateforme goudron du type de ce qu'il y a. C'est quoi ? C'est l'avenue de l'Âtre de Tassigny, ça, donc l'avenue qui va à l'alpilium. Très bien. Donc je pense que ça répondra à votre question, donc ça va se faire dans les jours à venir. Donc,
parce que ça fait combien d'années, pardon, qu'ils avaient été installés, ceux qui étaient sur l'avenue Van Gogh ?
Madame Mazuy, vous en rappelez ?
Non, 2014, dit Madame Mazuy, c'est ça ? Oui.
Là, il y en aura deux. Il y aura deux plateformes. Il y en aura une au nord du croisement Van Gogh-Balthus, de l'autre côté, c'est... comment ça s'appelle ? Bon, peu importe. Oui, non, c'est avant le chemin Gaulois. Bon, peu importe. Joseph Darbeau, merci. Donc, au croisement Joseph Darbeau, Baron-Sélie, avenue Van Gogh. Donc, il y en aura un au sud, c'est-à-dire en montant. Il y aura un autre au droit des Antiques, donc où là, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui traversent, et où là, c'est dangereux, donc la plateforme la permettra, un, de ralentir, et deux, de traverser de manière plus sécuritaire qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne chose. Quant au stop de l'avenue Folco de Baroncelli, il a été placé ici, d'une part pour casser la vitesse, bon, ça, je pense que c'est plutôt positif, et d'autre part, justement, à cause de ce manque de visibilité. Avant la mise en place du stop, c'était la règle de la priorité à droite qui s'appliquait, mais il était impossible de voir lorsque l'on circulait de l'avenue Van Gogh vers l'avenue Jean Balthus, si un véhicule arrivait ou non de l'avenue Marie-Gasquet sur la droite. Donc c'est la raison pour laquelle ce stop a été installé. Enfin, toujours dans le cadre des réunions de concertation avec le commandant de brigade, le carrefour de l'avenue Jeanne de Servières et l'avenue Jean Balthus n'est jamais apparu comme particulièrement accidentogène. Le dernier accrochage en date étendu, selon Damien Méda, au non-respect du stop situé sur l'avenue Jeanne de Servières. Voilà, évidemment, si les gens ne respectent pas les stops, ça devient compliqué, quoi. Donc, il n'apparaît pas que ça soit une zone particulièrement sensible. Encore une fois, je parle de Baroncelli-Balthus, je ne parle pas de Van Gogh, où là, les ralentisseurs sont plus que justifiés.
Oui, parce que ça fait quelque temps là qu'on les a plus, les ralentisseurs. Et puis d'ailleurs, il y a des panneaux qui sont recouverts et d'autres qui ne le sont pas. Alors, c'est un peu compliqué pour l'automobiliste qui ne connaît pas. Alors oui, on roule à 30. Non, il va y avoir un gendarme couché. Non, il n'y en a pas. Enfin bon.
Je vous rappelle que c'est un aménagement communal qui va être financé par la commune sur une route qui est départementale. Donc on n'est pas seul, quoi. Donc il a fallu obtenir l'accord de la direction des routes, ce qui a pris un petit peu de temps. Ensuite il faut passer le marché, etc., etc. Donc je concède que ça a mis un peu de temps, probablement un peu trop de temps, mais bon, ça va être fait très prochainement et j'en suis ravi.
Et donc ça sera de meilleure qualité, quoi, parce que si tous les 4 ans il faut changer le dispositif.
Ce sera dur.
Voilà. D'accord. Tout à fait. Enfin, c'est quelque chose qui doit être privé, mais les fameux escaliers qui sont sur l'avenue Baroncelli, c'est Baroncelli là. Il y a une maison qui a une montée d'escalier qui est directement sur la route, qui donne sur la voie. C'est dangereux, hein, mais bon. Oui, sur la droite. Ah oui, ça fait une verrue. Ça fait une verrue sur l'avenue, quoi, en fait. C'est dangereux.
C'est Jean Balthus, ça.
C'est sur Jean Balthus,
oui. Oui. Mathilde Mazuy, vous pouvez dire quelque chose là-dessus, vous voyez, non ?
Bon. Non. Bon.
T'es informé là.
Oui.
Dany, normalement, quand il y a des manifestations de Tourine, il y a un sens.
Oui.
Quand tu arrives de...
Je suis concerné.
Voilà. Normalement, le service d'ordre devrait fermer la barrière et les gens descendent pour éviter... Parce que, bon, malheureusement, c'est vrai que les gens s'assurent d'un côté, de l'autre. De chaque côté. Mais si on regarde bien l'arrêté, il y a un sens quand il y a les manifestations de Tourine. Oui. C'est-à-dire, quand on arrive de Van Gogh, il y a un sens unique à partir de Balthus jusqu'à Foucault de Brangélie.
Voilà. Oui, mais là, j'étais surtout inquiète pour l'avenue Van Gogh, parce que je me demandais pourquoi on avait supprimé les brise-vitesse, enfin parce qu'en fait, je me disais, ou elle est dangereuse, cette route, ou elle l'est pas, quoi. Hein. Donc, si au départ, on les avait placés, c'est que c'était dangereux.
En fait, lorsque le département nous a annoncé qu'il allait faire les travaux de rénovation de la rue qu'on avait bien besoin, on l'a questionné pour savoir s'il pouvait d'ores et déjà installer les brise-vitesse, les casse-essieux. Enfin, oui. Et le département a dit non, moi je fais l'enrobé, je fais le travail de superficie, de surface, mais après c'est à vous de vous faire sien les enrobés.
D'accord. Bien. Pour le recensement, la dernière question, si c'est possible, monsieur le maire. Il y a quelques mois, vous nous avez fait part d'une action de recours auprès de l'INSEE pour contester les derniers chiffres fournis par cet organisme. Où en êtes-vous sur ce point ? Par ailleurs, un recensement partiel a été réalisé au début de cette année. Avez-vous eu un retour de cette enquête ? Merci.
Daté. J'ai un trou de mémoire sur son nom. Monsieur Chalard, Laurent Chalard, tout à fait, merci. Donc, un nouveau courrier de contestation a été adressé au directeur général de l'INSEE. Vous rappelez des chiffres de Monsieur Chalard. Je me souviens d'en avoir parlé au moment des vœux. Il y avait des choses particulièrement éloquentes. Hein. Le nombre d'habitations qui a augmenté, etc., etc., et parallèlement, le nombre d'habitants qui diminue. Donc, ça nous paraissait quand même un peu bizarre. Donc, on a adressé un nouveau courrier au directeur général de l'INSEE. Ça, c'était le 4 janvier 2018. Donc, dans ce courrier, on insistait sur l'incohérence observée entre l'analyse des données fiscales qui montre une nette augmentation du nombre de logements, logements soumis à la taxe d'habitation, ce sont les chiffres de l'État, hein, les chiffres du ministère, et les résultats du recensement. Dans une réponse reçue le 21 février 2018, le directeur général accepte de procéder à, entre guillemets, c'est lui qui le dit, des contrôles terrain spécifiques. À ce jour, on attend toujours le résultat de cette enquête. Voilà, ça c'est le courrier qui nous a adressé en réponse. Quant aux chiffres du recensement dont vous parlez là, 2018, vous nous dites, avez-vous un retour sur cette enquête ? Ben non, hein, parce qu'on les a que le 1er janvier de l'année d'après, quoi. Entre-temps, ils nous donnent rien, l'INSEE. Ils viennent, ils font leur enquête de terrain, ensuite ils font leur calcul mathématique, qu'on conteste fortement, et puis le 1er janvier de l'année d'après, on a la bonne ou la mauvaise surprise. Alors, ce que je peux vous donner, mais je pense que ça ne vous avancera pas beaucoup, parce que j'imagine que vous les avez déjà, c'est les chiffres au 1er janvier 2018. Donc, population municipale 9775, population comptée à part 218, population totale 9993.
Ah voilà. Oui, il en manque 7.
Voilà,
oui. Voilà, c'est ça, on a bien compris. Mais est-ce que le delta ne pourrait pas s'expliquer par le nombre de maisons secondaires, non, en fait ?
Ah, mais ce sont les arguments que nous avance l'INSEE.
Ah, voilà, oui.
Mais alors, on aura peut-être un coup de main volontaire ou involontaire de la part de l'État, parce que si la taxe d'habitation demeure sur les résidences secondaires, vous verrez, comme par enchantement, elles vont fortement diminuer à Saint-Rémy.
Ah ben oui, persuadé. Certainement.
Voilà. Donc, bon, peut-être que ça nous aidera de ce côté-là avec l'INSEE, quoi.
Très bien. Voilà. Bon, pour nous, c'est fini. Merci, monsieur le maire.
Merci à vous. Pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie. La séance est levée.